Bonjour à tous et bienvenue dans les hors-séries de Slice. Comme vous le savez, nous parlons ici de l'entrepreneuriat, de ces hommes et de ces femmes qui ont un jour choisi de monter une entreprise ou d'en prendre la direction. Au-delà des portraits de patrons que je vous propose chaque mois, il me semblait important de m'intéresser à l'écosystème entourant l'entreprise. Dans ces hors-séries, je recevrai ceux qui, au travers des organisations pour lesquelles ils travaillent, aident les entreprises à naître, grandir et prospérer. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième hors-série de Slice. J'ai le plaisir de recevoir Mathilde Herman, qui est en charge des relations institutionnelles et des partenariats au sein de l'agence Innovation Défense. Mathilde m'a très gentiment reçue à l'Innovation Défense Lab et nous sommes revenus ensemble sur son parcours, de ses premiers rêves professionnels à son poste actuel au sein de l'AID, en passant par le JCAT et l'aventure Generate. Mathilde, a.k.a. ex-Madame PME, est comme vous le verrez, une femme bien occupée, ce qui nous a permis de mettre un coup de projecteur sur de nombreux sujets. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marjolaine.
Ça me fait plaisir de t'avoir au micro de Slice pour un hors-série. Depuis le temps qu'on parle de toi. Merci beaucoup de me recevoir ici. Donc on est rue Ballard à l'Innovation Défense Lab. Pour parler de toi, de ta vie, de ton œuvre. Et puis comme avec François, je pense qu'on va commencer par le commencement. Okay. Voir qui tu es, ce que tu as fait dans la vie, et puis après on parlera de l'AID et de ton poste actuel, si ça te va.
Ça me va très bien, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir, Marjolaine.
Donc du coup, on va commencer par tes études.
Ouais, ok, très bien.
Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite ?
Alors, quand j'étais petite, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. J'étais persuadée que je serais Mathilde Herman, avocate. C'était pour moi,
avocate.
C'était sûr.
Ouais. Mais avocate parce que tu voulais défendre criminel ou...
Alors, j'avais pas forcément encore d'idée sur est-ce que ce serait des criminels, est-ce que ce serait autre chose, mais j'avais un truc de... les gens considéraient que j'avais un certain bagou.
Ouais.
J'aimais bien un peu... toujours un peu défendre des trucs, je parlais beaucoup, j'étais...
Avoir raison peut-être, non ?
Oui, peut-être.
Voilà, il y avait cette petite tendance, ok, d'accord.
J'avais cette petite tendance à avoir envie d'avoir raison ou d'avoir le dernier mot. Donc naturellement, c'est un peu passé par là. Ma maman était notaire, donc il y avait ce truc un peu du droit qui était arrivé par là. Donc je sais pas, ça avait l'air vachement bien. J'étais persuadée que c'était ça. Mais quand je dis que j'étais persuadée, c'était au collège. Pour moi, c'était...
Tu seras avocate.
Après, j'irai au lycée, je ferai ES, c'est éco, okay, ouais. Social. Après, j'irai à la fac de droit et après, je serai avocate. Et
okay,
c'était plié, quoi. Ça m'a tenue pendant longtemps.
Et donc, tu étais en Normandie.
Donc, en Normandie, ouais.
Normande,
tout à
voilà.
Fait. Je suis une basse Normandie. Normandie, même si aujourd'hui, nous sommes un grand terrain unifié.
D'accord.
Mais ouais, je suis du Cotentin. J'étais en Normandie et donc, je suis fait mon collège, mon lycée là-bas.
Ouais.
Et ensuite, je suis partie à la fac de droit à la Caen.
Voilà, donc
très bonne fac de droit.
Voilà, donc t'as fait du droit, donc t'as suivi ton voilà, t'as fait ES,
oui. J'ai fait ES.
T'as fait ES.
J'ai fait le bac ES.
Tout suivi, tout va bien, ouais.
Exactement. Parce mais... que j'aimais bien bac ES un peu de faire, on touche un peu à tout. J'étais pas du tout matheuse, pas du tout scientifique, donc c'était pas ça mon truc. Puis j'aimais bien le côté éco-social, un peu business, un peu tout ça. Je sais pas, ça m'intéressait, ça avait l'air chouette. Donc j'ai fait ça. Et je suis partie à la fac de droit, comme j'avais dit.
Mm-hmm.
Et effectivement, il y a un moment, on se dit, il y a quand même une légère bifurcation dans le programme.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Je suis partie à la fac de droit, j'ai trouvé ça super. Ouais. J'arrive premier semestre, c'est très perturbant.
C'est général le droit, ouais. Je connais pas.
Alors c'est général, tu arrives la première année, tu touches les deux premières années, tu touches à tout, tu commences à prendre des options en troisième année. Mais les deux premières années, c'est hyper général. Mais tu arrives, donc t'es deux amphis de 500, donc déjà t'es une grosse cohorte.
Il y a de la casse.
Ouais, il y a de la casse, exactement. Et en fait, t'arrives le premier jour et ton prof te dit « Le droit, c'est fait pour vous, c'est pas fait pour vous.
Okay.
Ça se choisit pas. Si dans trois semaines, vous êtes largué, vous plaisez pas, partez parce que vous allez pas réussir à vous réconcilier avec le droit. »
D'accord, ça va vous dégoûter ad vitam aeternam. D'accord.
Donc là, t'as toute l'envie qui se regarde et qui se dit « Bon, dans
moi, je serai là,
je serai. »
C'est ça, je serai le survivant. Tu vois, genre, non, moi, je veux faire ça.
C'est ça, donc ça commence comme ça. Moi, je me dis hyper bien. Enfin, j'accroche direct au truc. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je m'éclate là-bas. Et en fait, il y a un moment, il y a un tournant. Fin du premier semestre, début du deuxième semestre.
Ah, t'as tenu plus de trois semaines.
Ah ouais, mais j'ai tenu le droit et j'ai continué. J'étais hyper intéressée par le droit, j'avais pas de problème là-dessus. Mais à la rupture entre les deux semestres, on va avec quelques amis de la promo au Mémorial de Caen, donc musée très connu, et qui fait tous les ans un grand concours de plaidoirie, qui est très connu, c'est un concours international, c'est un super truc. Et on décide d'y aller tous ensemble, parce que étudiant en droit, logique.
Le pèlerinage, quoi.
Exactement, le pèlerinage. On part tous ensemble, on va passer la journée là-bas, et je vois encore la scène, on sort du truc, et mes potes sont tous « Ah, c'était ouf, mais là ils étaient passionnants, c'était génial, mais je m'y suis vue et tout. » Et on est 5 dans une Twingo, je suis à l'arrière de la Twingo et moi je me dis, j'ai détesté.
Ah bon ?
Je te jure, j'ai fait, ils m'ont agacé, tous. j'ai pas aimé les approches, j'ai pas aimé, c'était larmoyant, j'ai pas aimé la façon de s'approcher, c'était bourré de mauvaise foi, je le sais.
Oui.
Et vraiment là, donc.
Ah la révélation, mais dans le mauvais sens du terme.
Ah ouais, vraiment. Voilà. Et là je me dis, bon, alors c'est quand même pas ça, c'était pas ce qui était écrit quand même. Ouais. Donc, comment je
Il y avait des sujets particuliers à cette plaidoirie ou...
Il y avait tout, il y avait des trucs sur les droits de l'homme, il y avait des trucs très... il y avait du criminel, je crois qu'il y avait vraiment de tout dans mon souvenir. Alors c'est parti un petit peu loin, c'était en 2011-2012.
Oui, d'accord, ouais.
C'est parti un peu loin les sujets, mais il y avait un peu de tout.
D'accord.
Mais effectivement, par contre, je sors en disant...
J'ai détesté.
Je veux pas être ces gens-là.
Ok.
Alors là, là j'ai un petit moment
de... La remise en question, genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?
Là, j'ai un flottement, parce que je suis là, mais moi, ça fait 10 ans que c'est bon, je sais ce que je fais, quoi. Donc, il n'y a pas de débat.
Ma vie était tracée.
Ouais, parce que c'est vrai que l'incertitude, c'est pas ma passion. Ouais. Donc, j'étais un peu en mode, c'est bon, là, ça déroule maintenant. Ouais. Donc là, il y a quelques semaines un peu compliquées. Ouais. Je fais, qu'est-ce que je fais ? Parce que la fac de droit, je m'éclate, en fait. Ça m'amuse, j'apprends plein de trucs.
Ça t'intéresse.
Ça m'intéresse. Donc le souci n'est pas là. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Passe quelques semaines, le deuxième semestre commence et là j'ai un cours d'introduction aux relations internationales qui nous est fait par un ambassadeur.
Ok. Ah.
Voilà, un ancien ambassadeur mais qui était aussi un prof de droit constitutionnel, un mec hyper intéressant, qui avait une culture sur plein de trucs. Et là effet inverse, tous mes potes ils vont à reculons. Oh là, c'est chiant. Oh là là, vivement le droit public quoi. Et moi je suis là.
Le droit
c'est génial.
Le droit public,
c'est ça. Et moi, je vais à chaque cours et je dis, ah, c'est génial. Oh, c'est trop bien. C'est trop
révélation.
Intéressant. On peut faire ça toute la semaine, en fait. Et ouais, la révélation se passe à ce moment-là. Je dis, OK. Donc, en fait, il est en train de se passer un truc.
Ouais.
Visiblement, c'est plutôt par là que ça se passe pour moi.
Et le droit international, ça a été une idée ?
Bah, je me dis à ce moment-là, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'en fait, il faut que j'aille faire du droit international. Donc, je commence à réfléchir à ça. Le semestre passe tranquillement, on s'engage un peu vers la deuxième année, et puis je commence moi du coup à m'intéresser à ces sujets de relations internationales, à me replonger dans des trucs que j'avais pas forcément étudiés avant, et en fait je me rends compte au fil de plein de trucs, en me penchant plus sur ce sujet-là, et d'autre part en réfléchissant à mes cours d'histoire, à tous les, un peu l'héritage de mon éducation jusque-là, je me rends compte qu'en fait... au début, je me dis, peut-être je vais partir dans la diplomatie.
Ouais.
Je vais réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire ? Parce qu'il va falloir que je quitte la fac de droit à un moment. En fait, ça ne va pas pouvoir continuer non plus indéfiniment, parce que visiblement, je ne vais pas être juriste. Donc, qu'est-ce que je fais ? Au début, je commence à penser diplomatie. Puis après, je commence à me rendre compte qu'en fait, là où vraiment j'accroche, c'est quand on commence à me parler de sujet de défense, quoi. Et c'est à ce moment-là que je commence à un peu à partir de cette direction-là, mais c'est très flou pour moi à ce moment-là. Et donc, troisième année, c'est l'année justement où on était censé commencer à rentrer dans le dur des sujets très juridiques. C'est là où les gens font le droit des contrats, le droit de la famille, les trucs très hardcore.
Ouais.
Et moi, je sais que ça ne va pas m'intéresser. Et j'ai envie de partir en ce moment. J'ai envie d'aller voir du pays et d'aller voir autre chose. Et donc, ma troisième année, je pars et je vais aux États-Unis.
Okay.
Faire un programme d'échange. Il y a peu d'étudiants en droit qui font ces programmes d'échange parce qu'en fait, quand ils reviennent, ils ont besoin d'avoir le contenu. Justement, parce qu'en fait, notamment ceux qui veulent être étudiants, qui veulent passer le barreau, il se passe beaucoup de trucs importants dans la troisième année. Donc, ils n'ont pas envie de repiquer. Donc,
ouais.
Peu d'étudiants en droit qui partent. Moi, je comptais quitter le cursus.
Coup, dans tous les cas, allons-y.
Moi, le cours sur le droit du divorce et la famille, si tu veux.
Moyen.
Non, c'était pas franchement pas priorisé. Et donc, je fais mon dossier comme ça à ma fac de droit en disant, écoutez, moi, je vais partir en master en relations internationales. Si vous me laissez partir, j'ai trouvé une fac qui a un super programme de relations internationales. Franchement, ça m'aiderait plus que vous me laissiez partir, que j'aille faire que ça pendant un an. Et je reviens et je pars en master. Ils m'ont dit banco, ils m'ont laissé partir. Et donc, je suis partie pendant un an aux États-Unis. Dans une
T'étais
petite
où
fac. J'étais en Pennsylvanie.
Ok.
Donc la Pennsylvanie, la ville la plus connue, c'est Philadelphie.
Ouais.
Donc c'est le berceau en plus de l'histoire des États-Unis, donc c'est hyper intéressant.
Sur la côte est, voilà. Côte est, exactement. Voilà, ouais. Les 13 colonies, tout
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait. Et donc je pars là-bas, dans une petite fac avec, comme je disais, un super programme de relations internationales. Je me plonge dans le sujet. Je prends que des cours sur ce sujet-là. Je m'éclate. Et là, vraiment, je me rends compte que c'est vraiment ça le sujet qui m'intéresse. Et ça se confirme vraiment le truc du... C'est vraiment les sujets défense qui m'intéresse le plus, mais c'est un truc qui, dans la vie universitaire française, aujourd'hui, existe très peu.
Ouais. En fait, bah oui, parce que d'où ça devient, la défense? C'est juste, t'as découvert ça comme ça, ou dans ta famille, je sais pas, t'as des...
Alors, pas du tout. C'est vrai que c'est un secteur qui est assez dynastique, hein. Souvent, ouais. Les oncles, les tantes, les... Enfin, je sais pas, il y a un truc dans la famille...
De père en fils ou en fille, de oncle en neveu, et de tout ça.
Exactement. Alors, moi, pas du tout.
D'accord.
Il n'y a pas du tout de monde de la défense dans ma famille, ce qui, d'ailleurs, du coup, était assez... perturbant, je pense, pour mes parents au début, eux ne connaissant pas du tout ce secteur. Quand j'ai commencé à dire je vais aller dans le monde de la défense, moi j'ai quand même senti chez ma maman une certaine inquiétude du ma fille en tri. Enfin, vraiment, elle l'a vu un peu comme ça.
D'accord, ouais.
Je pense que pour elle, connaissant l'image, pas le secteur, en fait, faire la défense, c'était forcément militaire. Alors en fait, non.
Non, pas du tout, il y a tellement de.
Tellement de choses. Mais à cette époque-là, effectivement, c'était pas très. Pour mes proches, c'était pas très clair. Mais même pour moi, c'était pas clair. Je savais pas forcément ce qu'il allait y avoir derrière, mais j'avais envie de creuser cette piste-là. Et donc, aux États-Unis, pour le coup, c'est un sujet d'études universitaires, c'est les War Studies, c'est des choses qui sont très ouvertes, en fait. Et donc, c'est la première fois là-bas, je rencontre notamment une professeure là-bas avec qui j'ai noué une amitié assez rapidement, parce que c'était elle, l'ancienne directrice des programmes internationaux, elle connaissait ma fac, elle connaissait tout ça. Et elle me recevait régulièrement, et c'est la première à qui je dis, mais je crois qu'en fait, j'ai envie de bosser là-dessus, sur les sujets de défense, mais je ne sais pas comment. Et c'est surtout la première à me dire, ok. Bah, on y va, je vais t'aider et on va te mettre sur les rails pour ça. Donc j'avais fait mon premier semestre un peu en découverte, cool, étudiant international, je prends les cours faciles.
On découvre la Pennsylvanie.
Ça va quoi. Les cours d'introduction à ceci et cela.
Ouais.
Et deuxième semestre, par contre, elle me dit, par contre, je vais t'aider, mais on va y aller, et là, on va taper fort. Et donc, elle me file tous les cours les plus avancés et les équivalents de dernière année de fac chez eux. Elle me fait écrire un mémoire... sur un sujet de mon choix pour m'aider et me préparer à rentrer dans ce sujet-là. Et donc, c'est là vraiment que je fais le switch. C'est ma troisième année aux États-Unis. Absolument génial. Je me suis éclatée pendant un an. Et ensuite, je rentre en France. Je fais mon premier stage.
Ouais.
Je passe un été au CNAPS, qui est le Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Ouais.
Et c'est mon premier un peu contact avec ce monde régalien.
Ouais.
Donc là, c'est côté sécurité intérieure que je ne connaissais pas. Donc, c'était passionnant. C'était à l'époque, l'institution avait peut-être 2 ans, donc c'était encore le début, c'était une toute petite équipe.
Et à là, Paris, voilà.
Le siège est à Paris, et après, il y a des délégations dans toute la France métropolitaine et outre-mer, d'ailleurs.
Et comment tu l'as trouvé, ce stage? C'est juste postuler tout bêtement?
Connexion interposée, on en parle, j'envoie un dossier, ils me disent OK, et on avance comme ça, et... voilà, on file un peu un coup de pouce parce qu'on connaissait le patron un peu par hasard, un peu par hasard parce que c'était un préfet.
D'accord.
Voilà, qu'on connaissait, qui normalement prenait pas beaucoup de stagiaires, mais ils disaient allez, pourquoi pas, on a un coup de bourse cet été, on y va. Et donc je passe l'été là-bas à faire rendre des services un peu dans tous les services qu'il y avait besoin, faire petitement quoi. C'était mon premier stage, c'est le début. Je m'éclate quoi.
T'avais déjà bossé avant? T'avais fait des petits jobs?
J'avais fait des petits boulots. Ouais, j'avais fait des petits boulots, j'avais fait beaucoup de. Beaucoup de soutien scolaire.
D'accord,
j'ai fait caissière l'été, j'ai fait... Enfin, voilà, tous les petits trucs d'appoint. J'ai fait le français pour le français et les maths pour des primaires. J'ai fait l'anglais pour les collégiens. J'ai fait même... je faisais du piano. J'ai fait une répétition du cours de piano pour la voisine pendant que j'étais à Caen. Enfin, vraiment, j'ai vu comme tous les étudiants, tu vois. J'ai cherché un peu.
Là, on rentre vraiment avec le CNAPS dans le monde du travail.
Ouais, ça y est, on y était. Ouais, c'était génial.
Là, t'es une adulte.
Ouais, exactement. On rentrait dans le sujet. Justement, c'est mon premier test avec ce monde-là public que je connaissais pas. Et je me suis éclatée. Ça a duré 2 mois et demi et c'était super. Surtout quand tu rentres de 1 an aux États-Unis, tu te dis là par contre, je vais pas pouvoir passer l'été chez mes parents à morfondre et à attendre. Tu vas passer une année de fou, tu te dis bon, là il va falloir faire quelque chose. Et puis c'était le moment quoi.
Donc
je fais ce premier stage et ensuite je pars à Lyon du coup, faire mon master 1 en relations internationales avec cette orientation très sécurité et défense.
Ouais. Ça existait déjà, le cursus sécurité défense à Lyon 3 ou, ouais, c'est pour ça,
ouais. Ouais, en fait, Lyon 3 a un fort héritage, un très grand héritage sur ces sujets de défense et de sécurité, qui sont d'ailleurs hébergés par la faculté de droit.
Oui.
C'est marrant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de vrai en France cursus et de facultés qui sont dédiées à ces sujets-là. Ouais. Et Lyon faisait partie des quelques masters en France qui, dès le master 1, rentraient directement dans les sujets de défense. Et moi, ça y est, j'avais compris que c'est ça que je voulais faire et je n'avais pas envie d'attendre le master 2 et faire un truc généraliste de relations internationales en M1. Et donc, je vais à Lyon. J'étais tombée dessus. Je me souviens d'avoir un peu le coup de cœur en voyant le parcours qui était proposé, en voyant la maquette. Et je me dis, c'est là-bas que je vais aller. Donc, je pars là-bas.
Tu ne connaissais pas du tout Lyon, c'est vraiment...
Non,
ouais.
D'accord. Je ne connaissais pas du tout Lyon. J'y étais jamais allée. Mais ça avait l'air cool. Ça avait l'air hyper intéressant. Je me suis dit, allez, on va tenter le coup. Et donc voilà, je pars là-bas. Et en fait, on est dans un cursus où il y a une licence en fait, à Lyon où déjà c'est droit et relations internationales. Ouais. Donc il y a plein de gens qui arrivaient dans ce master avec un très gros bagage de relations internationales. Et moi, j'avais vivoté, j'avais découvert les sujets aux États-Unis, mais avec aussi une autre approche de l'enseignement, une autre approche même académique de façon de traiter le sujet. Et donc là, j'arrive, et c'est vrai que les premières semaines sont un petit peu denses, parce que j'ai des cours de théorie des relations internationales, où tout le monde est hyper au taquet, moi je découvre les sujets.
Wow, le réalisme, quoi?
Ah oui, puis je suis avec des gens qui ont fait la licence, et donc du coup, ils utilisent déjà ces concepts-là de façon très naturelle. Moi, je vais vous rattraper.
Je vais bachoter.
Partiellement, j'arrive. Donc oui, les premières semaines, je me souviens, c'était un peu challenge, et puis en fait, on s'est vite mis dedans... Et puis ça s'est hyper bien passé.
C'était déjà Olivier Zajec.
En fait, c'est l'année où il arrive.
Allez. Ah, d'accord.
C'était intéressant aussi parce que c'est l'année où Olivier Zajec arrive à Lyon. Oui. La première promo qu'il a repris à Lyon. Moi, j'ai découvert ces sujets-là avec lui aussi. Il nous donnait le cours notamment de politique nucléaire, il donnait le cours de relations internationales, il donnait plein de choses. Et j'ai appris plein de choses et je me suis vraiment confirmée dans l'idée que c'était ça que je voulais faire. Quoi. Donc vraiment, à ce moment-là, ça devient... C'est bon, c'est clair c'est pour bon. Moi. Je ne sais pas ce que ce sera, comment ça va se matérialiser, mais je sais que c'est ce secteur-là que je veux faire.
Qui t'intéresse, voilà. D'accord. Mais plus pour l'instant, relations internationales, j'imagine. Peut-être que tu n'as pas encore cette idée, genre l'industrie, l'entreprise.
Alors non, à cette époque-là, l'entreprise, j'y connais rien. Je ne connais pas ça du tout. Et presque, je suis un peu dans le cliché de jeune assez idéaliste du « mais il n'y a que la fonction publique dans la vie ».
Ah oui.
Presque. Mais presque.
Ah oui, d'accord, oui.
Ouais, t'es censé faire ça dans le secteur public. Et puis pour moi, je visualise pas les autres façons possibilité, de travailler pour ce sujet-là.
Dans la défense, ouais.
Encore une fois, moi, j'ai pas de bagage défense avant, je connais pas de gens qui travaillent dans ce secteur-là. Donc j'ai une image très distante, en fait, à ce moment-là, de ce qu'est le monde de la défense. Donc je sais que j'ai envie de bosser là-dedans, mais je visualise comment ça va se matérialiser encore. Quoi. Donc oui, pour moi, à ce moment-là, je l'associe forcément au secteur public et à travailler pour une administration.
D'accord. Et pour les armées
ouais, peut-être, mais...
Enfin, dans l'armée, je veux dire, dans le sens en tant que militaire, voilà, non, c'est
alors,
ça.
C'est ça que, par contre, à ce moment-là, je suis aussi quand même très réaliste. Mathilde, soyons sérieuses. Saint-Cyr, l'école de l'air, non. C'est peu probable. Pour plein de raisons. J'ai un respect infini pour ce métier-là et pour ces armées. J'adore travailler avec eux et j'apprends tous les jours à travailler avec des militaires. J'adore ça. Mais même avec une compréhension encore distante de ce secteur, je comprends que militaire, c'est pas ça. C'est pas ma plus-value, sera pas là.
D'accord. Ouais.
Et que je pense pas que... À ce moment-là, je me dis, je pense pas que ce soit là-bas que tu vas t'épanouir, Mathilde, et c'est pas là-bas que tu auras le plus de choses à apporter.
Ok.
Enfin, pour moi, je sens quand même que ma place, ce sera plutôt dans une forme de fonction support de ces gens-là.
D'accord.
J'ai envie de les aider, ça c'est déjà clair dans mon esprit, mais être militaire, je sens que c'est pas fait pour moi.
Non, c'est pas fait pour toi.
Donc, c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Je me dis, mais attends, du coup, c'est quoi les autres alternatives
Où est-ce qu'on va se retrouver?
Comment on fait? Exactement, comment on fait? Et puis en plus, tu as à cette époque-là, il y a des choses qui s'appellent les stages CAGE. Donc les stages de la Commission Armée Jeunesse.
Ah,
la Commission Armée Jeunesse, donc c'est une commission qui a lien, comme son nom l'indique, qui fait le lien entre la jeunesse et les armées.
D'accord.
Et à ce titre-là, en fait, les armées proposent plein de stages. Et ça, c'est mine d'or pour les étudiants dans ces secteurs-là, parce qu'ils proposent plein de stages d'été, ou pas d'ailleurs, mais de 3 à 6 mois à peu près, dans les armées. Et souvent, c'est terrible parce que ils proposent des stages qui sont passionnants. Et les gens disent, mais c'est ça que je veux faire. Et en fait, il n'y a pas de poste à la sortie. Derrière les postes permanents, c'est des postes de militaires.
D'accord.
Et donc, c'est toujours un crève-cœur parce que, pour les étudiants, parce qu'ils disent, ah, c'est ça. Ouais, bah, en fait,
ça existe toujours là, les
ouais, 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 il y a plein de. Alors, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, je pense qu'ils auront identifié ça, mais il faut aller voir les stages CAGE, CAJ, il y a plein de choses. Il y a plein de choses là-bas.
Ah, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Je mettrai un lien dans l'article qui te sera dédié aussi sur Slice. D'accord, donc là, on est au M1.
Voilà, on est au M1. Tranquille. Et bah, justement, je me dis, bah, on va passer à l'action et on va essayer de trouver des stages pour pouvoir se lancer là-dedans. Et à ce moment-là, je décide de postuler à l'Assemblée nationale, à la commission de la défense, de l'Assemblée nationale, pour aller passer l'été là-bas. Et je postule pour essayer d'aller là-bas. Et il me rappelle en me disant, donc erreur de débutante, j'avais pas identifié qu'en fait l'été, les députés ne siègent pas.
Mais oui. Et moi je fais ah très bien. Non.
J'étais jeune et pleine d'enthousiasme, je n'avais pas relevé ce petit détail. Et il m'appelle en me disant mais non, mais en fait l'été on prend pas de stagiaires parce que les députés sont pas là, donc c'est très calme et en fait on n'a pas besoin de renfort. En revanche, en septembre, il y a le budget qui arrive. Là, on a besoin de renfort. Il m'appelle en me disant, franchement, si vous décalez votre demande de 2 mois et que vous venez de septembre à décembre, ça sent bon pour vous et j'ai besoin de gens avec votre profil, donc venez. Moi, je me dis, mais attends, mais là, mais comment je fais? Parce que septembre, je dois faire mon Master 2, donc comment je fais? Et en même temps, je suis déjà dans une optique de, il faut que je prépare après mes études et j'ai envie de rentrer dans le monde du travail. Je vais peut-être pas rater une occasion comme ça, quoi.
Bah, quand même...
Donc là, je vais voir l'administration de Lyon 3 et je leur dis, voilà ce qui m'arrive.
Voilà l'opportunité qu'on me propose quand exactement. Même, c'est un truc...
J'ai une super opportunité, on me propose d'aller bosser pendant 15 mois sur le budget de la défense, pour se soutenir sur les rapports et tout, et puis en plus, pas sur le côté avec un député politique, mais vraiment avec la les commission, administrateurs qui rédigent les dossiers, qui aident en fait les députés à rédiger les rapports, donc tu vois tout. Et je me dis, non, j'ai pas du tout envie de m'asseoir là-dessus, donc je vais les voir, je leur dis, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Et ils me disent, bah écoutez, à Lyon 3, on fait aussi le Master 2 à distance. Normalement, c'est plutôt historiquement fait pour des personnes qui travaillent depuis plusieurs années, qui veulent reprendre des études et qui, en parallèle de leur travail, font le Master. Mais là, effectivement, ce serait vraiment dommage pour vous que vous ratiez une occasion pareille. Donc, on pourrait vous le faire en formation initiale quand même. Et on a été quelques-uns comme ça cette année-là sur différents Masters parce que l'offre à Lyon est très vaste et il y a plein de spécialités différentes en diplomatie, en ONG, en plein de choses. Ouais. Et ils proposent ce format à distance pour quelques-unes de leurs branches. Et j'avais quelques amis qui avaient fait ça aussi et qui étaient partis pendant leur Master 2 pour différentes raisons. Du coup, je me retrouve à faire mon Master 2 à distance en allant travailler à l'Assemblée nationale. Donc en fait, concrètement, ça veut dire que je travaille 35 heures.
Ouais.
Donc, je suis tout le temps là. C'est pas comme un apprenti qui a des semaines où il est en cours. Je suis tout le temps au travail. Je reçois mes cours par mail. Je dois bachoter toute seule mes cours. Je rends quelques devoirs dans l'année, genre 2-3. Et à la fin de l'année, aller passer ces 15 épreuves toute l'année, les deux semestres ensemble, à la fin de l'année, et rendre un mémoire de recherche. Donc ça, c'est ton fil rouge de toute l'année, quoi. Donc voilà, moi je pars à ce moment-là à l'Assemblée nationale pendant 4 mois où je m'éclate. Enfin, je vois plein de choses. C'était assez fou. C'était une période compliquée parce que j'y vais en 2015, de septembre à décembre 2015. Mm-hmm. Donc je suis période des attentats, période de tout ça. Avec un moment qui est pour tous les Parisiens et tous les Français horrible, mais pour moi fascinant. Parce que je suis là, il se passe plein de choses. Les chefs d'état-major viennent nous rendre des comptes à l'Assemblée nationale. On assiste à plein d'auditions de fous. On nous explique pas à pas qu'est-ce qui se passe. Toutes les semaines, ils viennent nous dire où est-ce qu'on en est dans la situation. Enfin, pour moi, c'est un moment d'un point
historique,
de vue... historique. Ah ouais, c'est fou. Et c'est vraiment aussi un moment où je me dis, bah ouais, c'est vraiment ça que je veux être là dans ces moments-là, quoi. D'accord. Et c'est passionnant.
Au cœur de l'histoire, au cœur de...
Exactement.
De là où se fait l'histoire de notre pays, de l'actualité, etc.
Et puis de notre défense, quoi.
Ouais,
C'est vraiment une question de défense nationale à ce moment-là, et ça rentre presque, je dirais, dans la réalité de des gens qui se sentent peut-être très loin de ces sujets-là. Donc c'était assez incroyable, et je passe 4 mois là-bas, et ça se termine donc en décembre 2015.
Mm-hmm. Pas de possibilité d'être embauché ou non
vraiment, non, parce que c'est de la fonction publique, il y a un concours très dur pour être administrateur. Ils en prennent que genre 3 par an, quoi. Donc c'est vraiment j'exagère peut-être, mais c'est pas plus de 10 par an, je crois. Enfin, c'est un truc hyper restrictif. Et puis bon, j'ai adoré pendant 4 mois, j'en aurais pas forcément fait mon métier.
D'accord.
Mais j'ai adoré pendant 4 mois, c'était génial. L'équipe là-bas était super, hyper accueillante, et donc c'était génial. Mais à ce moment-là, ben voilà, donc janvier 2016, il faut que je trouve autre chose. Ouais. J'ai un deuxième semestre à occuper.
Ouais.
Donc je cherche.
Ah, mais tu recherches encore un autre stage?
Ben oui, parce d'accord. qu'il faut que j'occupe mon deuxième semestre.
D'accord, ok.
Et je suis toujours à distance.
Ah oui, t'es à distance, c'est vrai.
C'est l'année complète.
Mais t'aurais pu rester à la maison, tu sais, bosser tes cours et pas forcément.
Bah, un, c'était pas trop dans ma nature.
Ouais.
Et puis deux, j'avais un loyer à payer aussi.
Ah, ah, c'est un détail,
c'est un détail
qui a son importance.
Surtout un loyer parisien.
Oui, c'est vrai. Bon. Voilà. Non, c'est parce que je suis une provinciale. Moi, je débarque de ma province. Je suis là, non, mais Paris, tout va bien.
Donc non, et puis non, surtout le but aussi de le faire à distance, c'était vraiment d'engranger de l'expérience professionnelle. Pour ouais. pouvoir avoir déjà un pied dans le monde professionnel ouais. Quand j'allais finir mes études 6 mois après. Quoi.
Et puis d'avoir commencé à faire ton réseau aussi.
Exactement. Non, non, c'était un objectif. J'ai adoré faire ça à distance parce que j'étais prête à bosser. Quoi. J'avais envie d'y aller, j'étais prête. Quoi. Et d'ailleurs, c'était assez dur de bosser mes cours avec un aspect assez théorique
ouais.
alors que je pratiquais toute la... Enfin, ouais. je pratiquais un petit niveau.
Oui, hein, oui, bien sûr. Mais tu commençais à voir l'application et t'étais
exactement.
Dedans.
Exactement. Voilà. Je commençais à être immergée et le soir, rentrer et me remettre dans du théorique. C'était dur. Objectivement, c'était dur. C'était compliqué. Et donc, à ce moment-là, je cherche un stage pour mon deuxième semestre et je tombe sur une offre de stage au J4.
Voilà. T'as commencé comme stagiaire au J4 ?
Absolument. D'accord. Donc, le groupement des industriels de la défense, de la sécurité terrestre et aéroterrestre.
Et de sécurité.
Et de
tu
sécurité.
Dit, ouais, et de sécurité, ouais. Tu l'as dit, ouais.
Exactement.
Parce que c'est François Lador. Et de sécurité.
Et de
ah
sécurité.
Oui, de sécurité.
Défense et sécurité. Donc, clairement, les industriels de la défense, ouais. monde que je connais pas du tout.
Et là, on découvre l'entreprise.
Exactement. Et en plus, donc vraiment, j'y vais. C'est une année au Rosatory.
Ouais.
Ils avaient besoin d'un renfort. Ils avaient besoin de renfort parce qu'en fait, ils avaient une apprentie qui était là, qui s'était fait débaucher. Donc, normalement, ils recrutaient jamais à mi-année. Mais là, l'apprentie s'était fait débaucher. Ils ont besoin d'une stagiaire. Concours de circonstances, je candidate. Ils me recrutent et moi, je pars là-bas en me disant « Mathilde, il est temps quand même de te faire une expérience dans le privé. Tu as fait 2 stages dans le public. Il faut quand même, avant de te lancer dans une recherche de travail, il faut que tu aies vu le privé. Enfin, »
Oui, c'est pour ça, voir le vrai où est-ce quoi. Que tu vas te diriger. Voilà.
Et donc, je vois les industriels de la défense, je vois le salon de la défense du terrain. Et franchement, je me dis, bon, je vais aller passer 6 mois chez les vendeurs de canons.
Ouais.
Comme ça, j'aurais dit que j'ai vu, je me serais fait un avis et après, je m'en vais. Quoi.
Ouais.
Et puis, maintenant, je pars avec le cliché, comme on l'a tous en me disant, mais j'aurais fait ma BA.
Quand je me on connaît le ton futur à partir de ce moment-là, c'est rigolo.
Et vraiment, je pars comme ça. C'est 6 mois.
C'est 6 mois.
Allez. Je me dis, c'est bien quand t'es jeune de faire des trucs que t'auras pas envie de faire plus tard. Comme c'est ça, c'est sorti, tu vois. Je pars comme ça.
D'accord.
Et j'y vais, je rencontre une équipe bah, oui. de gens que tu connais. Mon directeur, je suis recrutée donc par le général Duquesne, qui est ouais. le général, qui est le délégué général du J4. Mon maître de stage, c'est le général Épitalon. C'est un homme pour qui j'ai un respect infini, qui m'aide à m'insérer dans le process. On est à une époque compliquée, on est à 6 mois de Rosatory, il vient d'avoir des changements dans l'équipe, donc on est très sollicité. Et puis c'est une petite équipe où quand ils recrutent des stagiaires, des apprentis, c'est pour les intégrer pleinement, c'est pas pour faire les cafés, quoi, hein, c'est ouais. pour y aller et puis pour bosser dur. J'apprends plein de trucs. Je travaille avec François, c'est comme ouais, François Matins. François a bossé ensemble, il a encore la communication et les affaires publiques à l'époque, entre guillemets seulement. Et donc, on se met à... c'est comme ça que j'intègre le J4. Je comprends très très vite que c'est pas du tout l'image que je montre.
Ouais.
Très très vite. Je commence à rencontrer les entreprises, je commence à découvrir ce monde-là, je me rends compte que c'est à 90% de la PME, je me rends compte que c'est des gens qui sont passionnés par leur métier, par le métier de la défense, qu'il y a une vraie notion de service à nos armées, de rendre quelque chose qui soit le plus efficace possible, qui les protège le plus, qui les aide le plus dans leur mission. Enfin, je découvre un truc qui est aux antipodes de l'image qui m'en était faite.
Ah, les vendeurs des canons.
Mais vraiment. Et je me dis, mais bon, ok, donc...
Bon.
Donc, la contre-communication qui est faite contre ce monde-là fonctionne.
C'est
parce
ça,
que
ouais.
même moi qui suis intéressée par le monde de la défense, je m'en suis ouais. fait une image... Et en fait, voilà, je découvre un autre monde. Il se passe plein de choses. Il y a quelqu'un qui quitte son poste au J4. Il y a une place qui se libère. Moi, je suis déjà là. Et en fait, on me demande de candidater au poste. Je suis là depuis 3 mois, je ne comprends pas ce qui se passe. Et en plus, le poste se libère. Je suis là depuis 2 mois. Je suis stagiaire depuis 2 mois.
Okay.
On me demande de candidater sur ce poste.
Oh oh. Ce que tu fais sans...
Ce que je fais.
Ouais.
Ah, parce que le général, s'il m'écoute, mais je me souviendrai toujours de cet entretien avec lui. Il me demande... Vous voulez faire quoi l'année prochaine, Mathilde? À ce moment-là, je ne sais pas exactement. Je lui donne des pistes. Il me dit, oh, ça, je pense que c'est, ça va pas être possible. Ça, vous savez, il y a beaucoup d'AP très peu d'élus. Ça va être très compliqué. Ça. Moi, je suis à 3 mois de la fin de mes études. Ouais. Je suis tendue. Je me demande comment ça va se passer. Clairement, j'ai envie de pleurer.
Quel va être mon avenir.
Merci, général, pour le soutien moral. Et en fait, parce que c'est un homme très intelligent, il finit par me dire, est-ce que vous avez pensé au poste qui se libère chez vous, Mathilde? Et là, je me dis, il est très doué. Et il me dit cette phrase d'anthologie. Il me dit, Mathilde, vous faites ce que vous voulez. On est un mercredi, je m'en souviens. Vous faites ce que vous voulez, mais lundi, vous avez un rendez-vous avec la RH. Je vous ai mis un rendez-vous avec la RH. Mais vous faites ce que vous voulez.
Voilà, sans pression. Hein. Vraiment, je dis ça, je dis rien.
Je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, un mois après, on me demande de rester. Et on me dit, voilà, tu vas prendre... Je devais être en stage chez eux jusqu'en juillet. On me dit, voilà, t'es toujours plus ou moins en stage, mais tu vas commencer à faire la bascule entre les deux. Tu vas commencer à prendre une partie des missions. Et puis surtout, on a Eurosatory, donc il va falloir que tu commences à monter en puissance là-dessus.
Donc, t'as pris ton poste au JICAT juste avant Eurosatory?
Ah ouais. Je suis officiellement recrutée en avril.
Waouh.
Je suis en train de finir mon master. Je dois écrire un mémoire de recherche de 150 pages. Je bosse, tu vois, une préparation de salon, donc oui. On bosse, on compte pas nos heures.
Ouais.
Moi, je suis en train de monter en puissance, c'est beaucoup d'informations. Ouais. Il faut que je précise pas pourquoi on me recrute, mais on me recrute pour prendre la relation avec tous les adhérents. Donc, je dois devenir la personne de confiance des adhérents, je viens d'arriver.
Je t'appelle Madame PME dans tous les épisodes.
Exactement.
C'est ça, c'est Madame PME. Je deviens Madame PME, quoi, en fait.
Je dois m'occuper de toutes les PME et leur rendre des services et être là pour elles et répondre à tous leurs besoins, alors que je découvre aussi. Je dois aller faire le recrutement, je dois aller expliquer à des gens, j'ai 23 ans, je dois aller expliquer à des gens que c'est moi qui vais les aider à travailler dans le monde de la défense. Ils ont deux fois mon âge. Tu vas avec
ça va bien se passer.
En toi.
Ça va bien se passer.
Et donc, on prépare Eurosatory, qui est juste le plus grand salon du monde pour la défense terrestre, qui est une machine incroyable.
Ah bah là, c'est un rouleau compresseur. Quoi.
Donc,
c'est...
Donc là, il n'y a pas de mise en jambe. Quoi. Donc là, tu y vas direct.
Mais au moins, c'est formateur.
Mais
c'est bien.
Formateur. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'arrive au JICAT dans ces conditions-là.
Oui. Intense.
Et donc, dans la foulée, voilà, je finis mes études. J'arrive au JICAT et en fait, j'enchaîne. Il n'y a pas de latence, qui est un luxe. Enfin, c'était royal.
Ouais.
Et je commence comme ça pour 4 très belles années au JICAT.
Ouais. Et puis 4 très belles années pendant lesquelles tu vas aussi te rapprocher de François et mettre sur les rails un super projet dont on a beaucoup entendu parler dans Slice, qui est Generate.
Absolument. Absolument. En fait, donc comme tu l'as dit, je suis Madame PME au JICAT à ce moment-là. Et ce premier Eurosatory que je fais, justement, je rencontre une boîte. En fait, j'ai un ami stagiaire de l'Assemblée nationale qui m'appelle en me disant « Non, mais alors Mathilde, j'ai un ami d'un ami qui a une boîte dans le drone. Ils veulent qu'on les aide à intégrer le monde de la défense. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Je dis « Écoute, envoie-les-moi. Il faut qu'ils viennent traîner à Eurosatory. Envoie-les-moi, je vais voir ce que je peux faire. » Je rencontre cette boîte. Et ils commencent, donc ils n'ont pas trop de chiffre d'affaires, ils n'ont pas trop d'équipe, c'est le début quoi. Et donc ils me demandent, est-ce qu'on peut adhérer au JICAT? Et je leur dis, je suis embêtée parce que j'ai hyper envie de vous aider. Ce que vous faites, j'ai personne chez moi qui le fait et ça répond à un besoin opérationnel, donc vous avez toute votre place. Mais moi je suis garante aussi des statuts, et en fait vous ne rentrez pas dans mes statuts. J'ai un problème mais de papier quoi, ça ne rentre pas. Je dis, écoutez, on va tenter le coup. Je pense que ça va être très compliqué, mais vous allez remplir mon dossier, je vais essayer de pousser votre dossier. En me disant derrière, au moins, on va ouvrir une discussion, en fait, parce que clairement, il y a un truc qui...
Ça va mettre le sujet sur la table.
On va mettre le sujet sur la table. Mais je leur fais pas miroiter que ça va marcher. Hein. Mmh. Je leur dis, je pense que ça va être compliqué, mais je vais tenter le coup. Mon conseil d'administration, dans son rôle, me dit... Mais non.
Ça ne rentre pas.
Ça ne rentre pas dans les cases. Et donc là, on a une grande discussion, effectivement, de dire, ok, mais alors là, ce que vous me demandez de faire, vous me demandez de leur dire non. Vous n'avez pas le droit de venir au JICAT pour que je vous aide à vous développer. Mais moi, à côté, je suis aussi responsable du développement du JICAT. Donc, dans 2 ans, quand ils vont faire du chiffre d'affaires, vous allez me demander d'aller les recruter pour qu'ils viennent chez nous. Et là, moi, je mets à leur place.
Ouais, c'est ça.
Je leur dirais, quand j'ai eu besoin de vous, vous n'étiez pas là, donc c'est nous, ça. Quoi. Et surtout, on dit, mais c'est pas le sens de l'histoire que d'aller mettre des startups et de leur dire, débrouillez-vous, en fait. Ouais. Vous développez dans ce secteur qui est hyper compliqué à aborder. Quand tu connais pas les gens, quand tu connais pas comment ça fonctionne, c'est l'aventure, quoi, donc compliqué. Donc il y a un débat qui se lève un peu, dire qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on trouve une alternative. Et là c'est François qui met le doigt sur le truc en disant, mais en fait juste faisons un truc à part, enfin faisons quelque chose pour eux, créons une solution, un truc qui n'existe pas aujourd'hui, et créons une solution pour eux. Dans la réunion ça passe un peu comme ça. Mm-hmm. Et moi je ressors et effectivement je vais voir François en disant, En fait, je pense que c'est toi qui as mis le doigt sur la solution. Parce que le problème vient de se poser, il va se reposer. Il y en aura d'autres. Et on commençait à ce moment-là. On est à ce moment-là en fin 2016, début 2017. On commence à avoir des startups qui viennent taper à la porte de l'industrie de défense. Et tu te dis, le problème va se reproduire. Et en plus, on est J4. C'est pas sexy, hein, déjà, hein, la défense terrestre. Enfin, faut savoir identifier ses défauts. On ne fait pas rêver les gens. Hein. Enfin, faut être
François en parle très bien, je trouve, dans son... Mais on a la communication, l'image du terrestre, de la défense terrestre, c'est compliqué.
C'est
hein.
Oh là là, les avions, magnifiques.
Et les bateaux, ils sont magnifiques. Ah, un char.
Le porte-avions, le sous-marin. Ah, le char.
Bon gros char.
Bon gros char. Les mecs dans la boue, les pieds dedans. Bon. Ouais. C'est compliqué.
Oui.
Et donc, là, je dis, en plus, on commence à rembarrer les boîtes innovantes. Alors, il y en a des boîtes innovantes aussi.
Oui, bien déjà sûr. Ouais.
Mais si en plus, il y a des jeunes qui essayent, des jeunes boîtes qui essayent de venir et qu'on les rembarre, on va taper à côté, quoi. C'est pas possible. C'est pas le sens de l'histoire. Vraiment, à ce moment-là, on commence à se dire, c'est pas ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc, avec François, on s'y met à deux et on dit, bon, bah, ok, on va essayer de réfléchir à un truc, quoi. Et donc, on réfléchit à Generate avec la commission RT du J4, qui à l'époque est présidée par un certain Emmanuel Kiva.
Un certain, oui.
Voilà, à qui on dit, on a eu cette idée-là, toi qui connais l'innovation, t'en penses quoi? Et qui me dit, mais bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. On en parle avec le président de la commission PME du J4, qui était Jérôme Diacre de LNO, oui. Avec qui moi j'ai énormément travaillé, qui m'a appris beaucoup aussi, qui lui avait une vraie vision d'entrepreneurs, de patrons de PME, de comment on fait tourner une boîte, et qui dit, mais oui, vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il faut qu'on les aide. Lui avait vraiment cette vision, il y avait d'un côté la vision soutien à l'innovation, de l'autre soutien à l'entrepreneur, et les deux nous disent, il faut le faire, il faut y aller, et ils nous aident. Et donc on monte un truc de toute pièce, en disant, ok, on va proposer un truc alternatif, c'est-à-dire on va les mettre associés du J4, ils n'auront pas le droit de voter dans nos institutions, ils n'auront pas de représentation dans ces trucs-là. De toute façon, ce n'est pas ça qu'ils viennent chercher.
Oui.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner pour une bouchée de pain annuelle. On va les aider à rencontrer des gens, à s'insérer. On va leur donner la crédibilité du J4 aussi, parce qu'elle n'est peut-être pas sexy dans le monde extérieur, mais elle est quand même crédible.
Oui, il y a quand même
le groupement, il est
une onction
depuis 78. Ouais. Il est branché dans toutes les institutions qui
vont bien. Puis tout le monde y est, tous les gros groupes aussi.
Tous les gros.
La DGA est très proche.
Voilà, donc il y a quand même une crédibilité qui permet, quand tu sors de nulle part, que tu es une start-up qui commence, que personne ne te connaît.
Ouais. Être au J4, ça
te permet. T'as un stample qui permet de dire j'ai montré pas de blanche avant, donc c'est OK, quoi.
Okay.
Et donc, on crée Generate en mars 2017.
Mm-hmm.
En se disant, on ne sait pas où on va, mais on y va. Quoi.
Ouais. on le verra bien.
On dort le truc, exactement. Et c'est comme ça qu'on recrute les premières startups, dont certaines très, très bons représentants que tu as eu dans cet excellent podcast avant, qui sont Aleph, qui font partie des premiers. Nimalis, qui le raconte d'ailleurs, c'est le tout premier à passer au jury.
C'est ça.
Et nous, on organise ce premier jury, on réunit des gens, et je me souviens qu'on se dit avec François, là, faut pas qu'on se plante, parce que s'ils trouvent pas que c'est qualitatif ce qu'on leur propose, ils vont pas nous suivre, quoi. On avait 6 mois pour faire nos preuves, il faut que dès le premier, on tape fort, quoi.
Ouais.
Et on tape fort parce que le tout premier qui passe, effectivement, c'est Arnaud. Arnaud qui a une capacité à présenter son projet qui est incroyable. Et je me souviens très bien qu'il sort de la salle à la fin de son jury et que les présents se regardent. Et il y en a un qui dit « S'ils sont tous comme ça, je ne sais pas comment on va décider. » Donc là, on se dit « Ok, c'est bon. »
Il met une bonne pression.
On a tapé dur, c'est bon. Et donc, voilà, toute la journée, on reçoit des gens et puis on commence à faire les premières promos comme ça.
Moi, ça me fait rire parce que Arnaud, quand je suis allée l'interroger pour Slice, j'avais peur d'être trop nulle et de ne pas comprendre. J'avais un peu de stress. Je me suis dit « Bon, allez, je vais l'interviewer. Je descends à Montpellier, mais peut-être qu'il va me perdre en route et je vais avoir l'air ridicule.
» Mais c'est ça qui est fascinant avec Arnaud, c'est que tu comprends toujours.
Oui.
Alors que c'est compliqué.
En soi, t'es là. D'accord.
Moi, je suis pas du tout technicienne, je suis pas tout ça, et j'ai toujours compris. Et d'ailleurs, c'était un très bon exercice en fait pour les boîtes aussi. C'était nous avant qu'elles passent un jury, on les filtrait tous.
Ouais.
On les voyait, François et moi, on les voyait tous, soit séparément, soit ensemble. Personne n'est arrivé au jury sans que nous on les ait vus avant. On filtrait énormément, enfin pas au début, hein, au début, mais pas autant que ça. À la fin, on filtrait vachement, et maintenant je pense qu'on filtre beaucoup. Mais au début, c'était un peu différent, mais on les avait tous vus avant. Et du coup, il y avait des moments, il y avait des boîtes à qui on disait, mais j'ai pas compris. Et on, juste, j'ai pas, je m'engage pas, juste,
je ne sais pas
j'ai pas compris. Donc toi, tu Bon, tu comprends. C'est bien.
Entre toi et toi-même, ça marche bien.
Ça a l'air de marcher. Par contre, pour le monde extérieur, peut-être falloir qu'on travaille en voilà. Et ça faisait partie aussi de l'accompagnement qu'on leur donnait pour ceux qui intégraient de dire
communication. Y a que toi qui te comprends. D'accord.
Exactement. Ouais. Et il y a des gens qu'on a fait vachement bosser là-dessus. Et on en a eu un comme ça une fois. On lui a dit on va pas te prendre cette fois, mais tu vas revenir dans 2 mois. Et je te demande de retravailler. Parce qu'on sentait qu'il y avait un truc, mais mon jury n'avait pas compris. Alors que moi, je les avais déjà vus, je savais ce qu'il y avait à vendre et ça m'est arrivé 1-2 fois comme ça. Ils sortent de la salle et le jury me dit j'ai pas compris.
Ah ouais.
Et donc 2 fois, on a fait ça de dire ouais, mais nous, on y croit, on pense vraiment qu'il y a un truc, mais je comprends que vous n'ayez pas compris. Je comprends qu'il vous a perdu dans sa façon de présenter le truc, la personne vous a perdu. On va retenter.
Donc, petit conseil à ceux qui voudraient lancer une boîte, qui ne sont pas trop start-up, bossez quand même la compréhension de votre sujet, surtout si vous êtes sur des technologies, des innovations. Exactement. Un petit peu, j'allais dire perché, mais un peu compliqué, on va dire, pour le commun des mortels qui n'a pas le même background, à haute valeur ajoutée. bien se mettre au niveau de vos interlocuteurs pour pas...
Mais le meilleur moyen, je trouve, c'est aller présenter votre projet à des gens qui n'y connaissent rien. Appelez votre tante, votre cousine, votre voisin, mais des gens qui n'y connaissent rien, parce que si eux comprennent, c'est gagnant.
Ouais.
Alors après, il faut pas si en face de vous vous avez des gens qui sont très techniciens, il faut pas sur simplifier et du coup en oublier les plus-values technologiques. C'est pas ça, mais il faut effectivement savoir s'adapter à son auditoire. Si vous passez un jury hyper technique, rentrez dans la technique.
Ouais,
si vous passez un jury de financement, ils ont rien compris, au fond, ils risquent pas de vous donner de l'argent, donc il faut savoir s'adapter, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était parfois des messages qu'on faisait passer.
Et puis surtout, ayez conscience de vos compétences.
Exactement.
Parce que comme Arnaud, toujours, avec son collègue avec qui il a monté la boîte, qui est dans sa grotte, il est très bien dans sa grotte, et puis Arnaud, il est volubile, donc c'est lui qui est envoyé pour présenter son projet, et surtout pas les personnes qui se sentent pas, qui sont un petit peu bourrues, ou qui, sont pas...
Il faut jamais oublier que quand tu soutiens des petites boîtes, surtout comme ça, quand tu commences, tu soutiens une équipe aussi. Hein.
Ouais.
Ça, c'est un facteur énorme du truc. Est-ce que je crois dans l'équipe ? Et si tu sens que non, ça va pas le faire.
Ouais.
Donc, c'est un facteur humain qui est énorme. Est-ce que j'ai envie de bosser pour eux ? Est-ce que j'ai envie de me battre pour cette boîte ? Est-ce que à Generate, on avait vachement ça ? Et ouais, on se cassait pas qu'il y avait aussi une forme de truc assez subjectif de dire est-ce que j'ai envie de me battre pour eux, quoi ? Parce que c'était ça derrière. Parce qu'une fois qu'on a dit la sélection, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on faisait ? C'était les materner au quotidien. Mais je dis ça avec beaucoup d'amour.
Oui,
c'était
pas du
tout. Je le faisais pour péjoratif, les PME ou quoi que ce soit. Mais c'était être là pour eux. Leur proposer nous de façon proactive des choses et répondre à tous leurs problèmes. C'est j'ai besoin de parler avec Thalès, j'ai besoin de parler avec tel groupe, je comprends pas comment fonctionne telle institution, je sais pas où taper. Ok, je m'en occupe. Donc là, t'appelles un tel de ma part, là, je vais te faire le mail de mise en relation, là, je vais te trouver l'organigramme que t'as pas. Et c'était plein de choses comme ça. Et c'était être capable de faire des trucs du simple tiens, voici un mot de passe pour ton compte sur le site du GICAT à tiens, voilà le contact pour aller faire ton rendez-vous au cabinet du ministre ou ce genre de truc. Et c'était être capable de les accompagner sur tout ça.
Tout ce panel, cette panoplie de services, etc.
Et sur aussi plein de services qu'on n'avait pas forcément anticipé avant, mais ils nous demandaient tout. Et en fait, c'était la règle qu'on avait fixée, c'était de dire vous pouvez tout nous demander. On ne sait pas forcément tout faire, mais vous pouvez tout nous demander et puis on fera toujours de notre mieux. Donc c'était vraiment les accompagner et moi j'ai adoré ça parce que du coup c'était vraiment rentrer aussi dans une forme d'intimité de la boîte en fait et de les aider à se dire on a envie qu'ils aillent au bout, on a envie de les accompagner et humainement c'était incroyable.
Ah ouais, ouais.
C'était incroyable et je me souviens d'une fois où j'avais une boîte qui avait un problème et je me souviens d'avoir un... Elle m'appelle, la boîte m'appelle en me disant bah là je bute et je ça va pas et vraiment je sentais que l'entrepreneur en face c'était un moment difficile professionnellement, qui devenait personnellement très dur. Et je savais plus comment faire. Je me sens de raccrocher le téléphone et de passer une heure à redescendre tous mes contacts et à me dire qui est-ce que j'ai pas appelé, qui est-ce que je peux actionner, qu'est-ce que j'ai pas encore fait pour essayer de lui régler son problème. Et vraiment rester la tête dans les mains dans mon bureau.
Ouais.
Mais qu'est-ce que j'ai pas trouvé encore comme solution pour les sortir de cette situation qui est compliquée, quoi. Et ça, c'était passionnant à faire.
Ça me fait regretter mon... ouais, c'est des bons... je connais un peu ce genre de travail, on va dire.
Exactement. Ce que je faisais avec les PME aussi.
Ouais,
c'était
voilà,
génial avec
des
PME aussi. Et ça, c'est... Parce que dans Generate, il y avait l'aventure humaine aussi. Donc ça, on leur a dit aussi à eux, les premiers, en disant... On est conscient qu'on n'a jamais fait d'accompagnement de start-up avant.
On va tester avec vous.
Avec ça. On leur avait pas menti. On leur
avait
pas,
ils savaient où ils mettaient les pieds.
On leur avait dit, écoutez... On est tous en train de tenter un truc ensemble. Dites-nous quand on est dans la bonne direction, puis dites-nous quand vous pensez qu'on tape à côté.
Ou si vous avez besoin de plus ou de, dans une autre direction. Bon, après, ils savaient qu'ils ne s'adressaient pas non plus au premier bras cassé.
Non, mais du coup, il y avait un super alignement aussi des personnalités. En fait, eux, ils avaient envie, ils avaient besoin que ça marche.
C'est vrai que le premier recrutement, enfin, on a juste eu Aleph, Numanis et Elikati, mais c'est déjà des bonnes.
Une bonne brochette. C'était une super brochette. Et aujourd'hui, on a eu Cerber, on a eu Préligence, on a eu tous ces gens-là. Et en fait, aujourd'hui, ils se parlent encore, ils se rendent des services, ils s'appellent entre entrepreneurs pour s'aider à régler des problèmes. Et il y en a plein d'autres qui le font. Oui. Puis bon, je suis partie depuis, mais il y en a plein d'autres.
T'as fait combien de promos, toi, alors, en tout, de Generate ?
Moi, je suis partie en décembre 2019. Je pense que mon dernier recrutement, c'était la promo 6.
Ah ouais, t'as quand même.
Je ne sais plus exactement, mais on avait déjà quand même brassé pas mal de boîtes. Parce que chaque promo, c'était. Ça dépendait, en fait. La toute première, on avait dû prendre 9 boîtes. Une fois, on n'en a pris que 3. Une fois, on en a pris 7. Enfin, ça dépendait.
Ouais.
On ne se fixait pas d'objectif de quantité. C'était vraiment, est-ce qu'on a envie d'accompagner ces gens-là ? Est-ce qu'on pense que c'est pertinent ? Oui, non. Puis voilà. On attendait que les deux. Enfin, au bout d'un moment, on avait le luxe d'attendre que les dossiers rentrent.
Les dossiers arrivent tout seuls. On n'a pas besoin d'aller démarcher.
Ouais, alors c'est ça. La première année, on a démarché. Et en fait, alors c'est ça aussi qui était particulier, parce qu'on ne savait pas comment ça allait prendre à l'extérieur. Et en fait, très vite, ça a fait appel d'air. Parce qu'on s'est rendu compte que ça répondait à un besoin des boîtes. Qu'il y avait des startups qui avaient envie de venir dans le monde de la défense, qu'elles ne savaient pas comment faire. Et tout d'un coup, il y avait un accélérateur de startups spécifique défense-sécurité qui sortait. Et en fait, très vite, au bout de la troisième promo, les gens appelaient, quoi. Les gens nous envoyaient des mails. Et au bout d'un an, même pas, ouais, un an, on tournait à 3-4 mails de demande de rencontres avec nous par semaine, quoi.
Ah ouais.
Et comme nous, on avait fait la connerie, enfin l'erreur stratégique de dire on les rencontrera tous.
Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est honorable.
Comment te dire ?
Non, mais on ne peut que saluer votre dévouement.
Parce qu'on s'était dit, même si on ne ferait rien pour eux,
ouais,
en fait, il y a plein de boîtes qu'on n'avait pas gardées et à qui on disait, on ne va pas vous prendre, vous n'allez pas passer le jury. Par contre, voilà, quelques numéros de téléphone, quelques adresses mail. Vous les appelez toujours vous pas,
aider, ouais.
Parce que nous, on n'avait pas d'action et qu'on avait envie que les boîtes, elles s'en sortent. Donc, même si parfois, je me souviens d'une fois, une boîte, c'était vraiment une niche. Hein, et je leur avais dit, honnêtement, ce que je peux faire pour vous en 2 heures, j'aurai pas plus que ça. Donc je leur avais dit après leur jury, vous revenez, je vais passer 2 heures avec vous, je vais vous dire tout ce que je sais sur cette niche de marché que vous avez, je vais vous donner toutes les informations que j'ai, et après je vous laisserai repartir parce que juste je sais que j'aurai pas plus que ça. Mais on l'avait fait. Et ouais, ils sont pas restés chez nous, ils sont pas vendus du 4, c'est pas grave.
Ouais.
Ça avait aidé la boîte et on était contents, quoi.
C'est cool, et puis ça leur laisse dans l'esprit un bon souvenir. Exactement. Etc. Et on ne sait jamais où est-ce qu'on peut les recroiser aussi.
Exactement.
Quelle direction va prendre leur innovation, sait-on jamais. Donc tu faisais ça à moitié, enfin on va dire moitié Generate, moitié Madame PME, fin c'était très très Generate.
Non, c'était... Le problème c'était que c'était 100% PME, 100% service, 100% Generate, 100% plein de trucs quand même.
100%
soutien export à l'étranger.
Oui, c'est ça, parce que toi, oui, c'est ça, c'était le point où je voulais en venir, parce que tu partais aussi à l'accompagnement à l'étranger.
Oui, parce qu'en fait j'étais beaucoup Madame PME, mais pourquoi j'étais Madame PME? En fait, plus de 90% des membres du GICAT c'était des PME. Et en fait j'avais aussi une fonction service aux membres, qui juste que dans les faits faisait que je m'occupais beaucoup des PME, mais je m'occupais un peu de tout le monde, en fait,
oui,
des services à tous les membres. Ce qui fait que quand j'avais un gros groupe de boîtes qui partait à l'étranger, bah moi, en tant que responsable des services aux entreprises, je vais être là pour elles. Et donc, je partais à l'étranger avec elles, sur les pavillons, et là, c'était le maternage plus pendant une semaine, où j'étais là pour les aider à aller chercher les délégations officielles, donc j'arrêtais des mecs dans les allées. J'étais très... Parce que, en fait, là, mon premier salon, on m'envoie avec très peu d'instructions. On m'envoie en Pologne.
Débrouille-toi. Ah oui, à Kielce.
À Kielce, exactement. Kielce. Dans ce très MSPO. Beau salon qui s'appelle MSPO. Et moi, c'est marrant parce que... Donc, ça, je suis au J4 depuis janvier 2016. MSPO, c'est septembre 2016. Je suis titulaire depuis quelques mois seulement. Et on me dit, Mathilde, on vous fait tellement confiance, on vous envoie toute seule en Pologne.
Oh, c'est gentil.
Et moi, à cette époque-là, je me dis, ah, trop bien, c'est mon premier salon export. Génial. J'avais pas compris le traquenard encore à ce stade.
En plus, la MSPO, c'est très polono-polonais, quoi.
C'est polono-polonais, c'est au bout du monde, c'est à 2 heures de l'aéroport, c'est dans la pampa, c'est un truc de fou.
Il n'y a pas d'hôtel, il faut s'y prendre 3 mois avant pour pouvoir pas habiter dans un chalet.
C'était une galère. On part à deux avec Anis Simon, tant qu'il travaillait au COGES à l'époque.
Anis Bakri ?
Oui, mais Anis a été mon acolyte avant qu'Éléonore arrive et le remplace brillamment. C'était Anis,
on fait coucou à Anis qui est à Dubaï, voilà.
Dubaï. Et donc on part là-bas, c'est mon premier salon et j'ai pas trop d'instructions en fait, je sais pas trop ce que je dois faire et en fait ce que j'avais juste tiré des conclusions de ce que je devais faire en entendant mes collègues parler de leur fait d'armes de salon à droite et à gauche.
D'accord.
Et je venais de faire un Eurosatory, mais c'est pas pareil de gérer tes boîtes en France que d'aller faire un pavillon à l'export. Et je viens d'arriver et je me dis il faut que ça marche parce qu'en fait les boîtes là elles sont 15. Si je me plante, elles vont me voir me planter, ça va être terrible. Quoi. Il faut absolument que ça se passe bien. C'est
performante.
Donc, je pars avec un dynamisme de feu sur ce premier salon. Je m'occupe d'elle pendant une semaine. On organise des cocktails, on fait des machins, on fait des trucs. J'arrête les mecs dans les allées. Je découvre comment on va gérer les délégations officielles. Et le truc que tu détestes qu'on te fasse sur les salons, il faut le faire sur les salons des autres.
C'est-à-dire
détourner les gens de leur parcours.
C'est ça. Viens plutôt que là où tu avais prévu d'aller. Et là, les gens qui te regardent avec des yeux, genre là, je veux la tuer.
L'officier accompagnateur.
C'est ça.
Non, c'est pas ça que j'avais dit. C'est pas ça qu'ils m'ont demandé, mes chefs. Mais non. Donc voilà, je fais ça pendant une semaine et c'est mon premier salon. Et ça s'était hyper bien passé. J'avais eu un super contact avec les boîtes. C'est pour ça que j'ai toujours adoré les salons parce que tu passais une semaine, tu sais, un peu en circuit.
En autarcie, tu es à la fois le géo du Club Med, la maman, c'est ça. Penser à rentrer. Oui, on sort des bars et on va se coucher parce que demain on se lève à 7h.
Ah bah non. Les horaires, c'est ça, machin. T'as pété ton tabouret. Mais demander à la technique
de regarde, je t'ai imprimé un badge supplémentaire parce que voilà.
Le badge. Ton badge parking. Je vais te trouver un badge parking.
Je vais t'en trouver un.
Je vais aller jouer des coudes.
Tu l'as oublié. Oh,
tu veux une invitation en plus pour la soirée officielle du machin. Je vais aller essayer de trouver quelqu'un qui veut bien me gratter un truc.
Bah, j'arrive.
Voilà. Donc, tu connais ça comme moi. Mais c'était marrant. C'était marrant. Parce que, en fait, les salons, c'est vraiment l'école de la débrouille, quoi. Et moi, j'aimais bien ça. En fait, j'avais besoin de le côté main dans le cambouis, j'adorais. Et c'est ça que j'aimais au J4. C'est-à-dire que tu pouvais être le matin, tu soulevais les cartons pour le pavillon que tu fais dans 2 jours. Et le soir, tu as eu un dîner officiel à 150 avec des députés, des journalistes et des machins. Et moi, c'est ça que je trouvais hyper sympa.
Le mélange des genres, c'est
super. Tu avais de la vraie réflexion, tu avais du service pour les entreprises et tu avais des moments très pratiques où je ne tire pas trop en place. Donc, j'aimais bien être vraiment... faire ça. C'était vraiment chouette.
Et malgré tout, au bout de 4 ans...
Au bout de 4 ans.
Au désespoir de François Matens Mathilde, je me fais débaucher.
Et oui, je me fais débaucher, absolument. Ouais, alors j'ai adoré le J4, moi j'ai adoré mes 4 ans là-bas, j'ai appris plein de choses, humainement c'était super, j'ai appris plein de choses, j'ai appris un métier, j'ai appris un secteur, j'ai adoré ça. J'ai découvert les sujets d'innovation là-bas. Ouais. En fait, les sujets d'innovation, je les ai même découverts à l'Assemblée nationale parce que j'ai aidé l'administratrice qui s'occupait du programme 144, donc le programme de préparation de l'avenir. C'est là-bas que je découvre les sujets sur l'innovation.
Ah oui, donc
c'est là-bas que je découvre la préparation de l'avenir. Je reviens un peu en arrière, mais c'est là-bas que je découvre la préparation de l'avenir. C'est là-bas que je découvre des problématiques que je ne pensais même pas que ça existait. Je découvre ce qui fonctionne, je découvre ce qui ne fonctionne pas. C'est là que je décide que mon mémoire de fin de master, je le ferai sur la prospective de défense et comment on peut essayer d'améliorer ces sujets-là et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est au J4 ensuite que je découvre l'aspect très innovation avec les startups. Donc, c'est un conducteur aussi qui m'emmène vers ce sujet-là. Et c'est vrai que donc on crée Generate en 2017.
Ouais.
Moi, je pars en fin 2019, donc quasiment 3 ans à m'occuper de ces boîtes-là. Je me rends compte que je m'amuse vachement sur les sujets d'innovation et que vraiment, c'est chouette. Et puis aussi, t'as beau avoir adoré, c'était mon premier poste, ça faisait 4 ans.
Il était temps de bouger à un moment donné.
Il était temps pour moi de faire autre chose. J'avais fait la tournée mondiale des parcs expo. C'était bon, quoi. Je pouvais passer à autre chose quand j'étais prête.
On était passé 5-6 fois à Kiers.
Voilà, c'était bon. C'était bon. J'avais eu assez de Pologne. Donc, quelques mois avant ça, se crée l'Agence de l'innovation de France.
Le 1er septembre 2018.
Exactement. Voilà. Elle avait été annoncée quelques mois avant, mais elle est ouverte de façon effective le 1er septembre 2018.
Ils avaient déjà décidé de la confier à Emmanuel Kiva ?
Au 1er septembre 2018, c'est officiel. Ouais.
D'accord,
c'est
ok.
C'est lui qui est déjà directeur. Et en fait, moi, par général, j'avais beaucoup travaillé avec Emmanuel, forcément. C'était une PME, c'était président de la commission RT, c'était président du jury général, donc on a énormément bossé ensemble. Quand l'agence se monte et que c'est lui qui est nommé, on en parle, c'est un ami, je lui dis que je commence à avoir envie de faire autre chose, quoi. Donc il me dit, bah écoute, t'as qu'à venir, en fait.
Suis-moi. Viens. Viens avec
et,
moi.
Et voilà, il me recrute pour venir bosser avec lui à l'agence de l'innovation de défense, donc je rejoins en décembre 2019.
Ok.
Et là, il me demande de venir l'aider sur... je change de positionnement par rapport à ce que je faisais avant. Avant, j'étais vraiment les mains dans les boîtes, quoi. Je m'occupais vraiment de ça. Et là, il me demande de venir pour l'aider à travailler sur les relations institutionnelles de l'agence, donc c'est-à-dire ses relations parlementaires. Les parlementaires nous sollicitent beaucoup, ce qui est normal. Ils me demandent de rendre des comptes sur ce que l'action de l'agence.
Bien sûr, ce qui est normal.
Naturel. Et puis, on est hyper contents en plus qu'ils aient envie de savoir comment ça avance. Mmh. Donc, c'est préparer beaucoup d'auditions parlementaires, beaucoup de choses comme ça. Là, on... depuis décembre 2019, on en a fait une quinzaine quasiment. Oui. Donc, c'est une grosse sollicitation. Et donc, à chaque fois, bah, il faut se préparer et il faut préparer le directeur. Donc, moi, je travaille là-dessus. Je travaille aussi sur, je dirais, faire en sorte que l'agence, elle soit branchée aussi avec les communautés qui sont pertinentes pour elle. On a besoin que les industriels comprennent qui on est, comprennent ce qu'on fait, comprennent notre action, comprennent comment faire pour qu'on travaille ensemble. C'est pas facile, hein, pour les boîtes...
comment aborder ce nouvel objet.
Exactement, il y a ce nouvel objet qui arrive, qui est rattaché à la DGA, mais c'est pas un service de la DGA. Il faut appréhender ce nouvel objet qui s'appelle Agence Innovation Défense, qui arrive dans un secteur qui était déjà très structuré depuis très longtemps. Et donc, oui, c'est pas facile pour les entreprises de comprendre qu'est-ce que ça change pour moi, qu'est-ce que ça change dans la façon que j'avais de travailler avant.
Et puis comment on s'adresse aussi à l'Agence Innovation Défense.
Donc, il y a plein de choses qui ont besoin d'être faites dans ce domaine-là. Et donc, moi, je suis là pour aider notamment à brancher l'agence avec des partenaires extérieurs qui peuvent être pertinents. Il y a déjà plein de partenaires qui existent, notamment sur le fond des projets.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'Agence nationale pour la recherche, avec qui on a des actions communes, les ministères, le MESRI, par exemple.
Il y a le CEA aussi.
Le CEA, voilà. Tous ces gens-là, c'est des vrais techniciens qui vont travailler sur le fond des projets. C'est pas du tout mon métier. Il y a des gens brillants à l'agence qui s'occupent de ça. Des ingénieurs, en veux-tu, en voilà, qui maîtrisent tout ça, ce qui n'est pas mon cas. Donc, moi, je gère pas ça. Par contre, ce que je vais gérer, c'est ce que je connais. C'est-à-dire brancher plutôt l'agence avec les réseaux industriels.
D'accord.
Donc, c'est travailler avec les groupements professionnels, c'est travailler avec les associations, c'est aller réfléchir avec qui il serait pertinent qu'on ait un lien privilégié et un canal de communication partagé pour qu'on puisse interagir avec ces gens-là.
D'accord. Donc c'est grâce à toi, les conventions de partenariat, JICAD, voilà. JICAN, Comité Richelieu, etc.
Exactement. Comité Richelieu n'est pas encore faite, mais j'espère. Voilà. Non, mais dans mes premières actions, effectivement, il y a les conventions de partenariat avec le JICAN, avec le JICAD. Le JIFAS est arrivé, est arrivé plutôt dans la foulée. Il y en a d'autres qui sont en train d'être discutés avec différents acteurs. Et vraiment, cet objectif de dire, il faut qu'on se branche. Moi, je suis aussi là pour, par exemple, organiser des choses en région, pour essayer d'emmener le directeur en région. On fait des choses, on essaie de faire cette pédagogie aussi.
Aller se présenter, comment ça marche. Parce qu'en plus, maintenant, c'est l'Agence Innovation Défense qui a repris tout ce qui est rapide. Donc, rapide, c'est la subvention de l'innovation pour les technologies duales. Donc, à la fois, donc, je le rappelle parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est pour les technologies duales à la fois civiles et militaires. Et avant, ça, c'était géré par la DGA directement. Et ça, c'est prérogatives, enfin des choses que vous avez récupérées avec la création de l'agence. Donc il faut remettre un peu toutes les...
Parce que la création de l'agence, en fait, c'est pas... on crée pas une institution de toutes pièces, de zéro, et on jette tout et on recommence. Il y a plein de choses qui fonctionnaient bien déjà à la DGA, comme les systèmes rapides, par exemple. Donc on a aussi agrégé dans l'agence plein de choses qui étaient existantes, mais qui avaient besoin d'être un peu mises en musique et qui avaient besoin d'être coordonnées davantage. Donc il y a cette double mission d'être un fédérateur de l'innovation de défense, d'être un coordinateur, de travailler avec tous les états-majors, les directions et les services sur leurs besoins pour les accompagner dans leur dynamique innovation, et aussi d'être là pour fournir des nouveaux outils.
D'accord.
Donc, y a eu une augmentation du budget qui est allouée au programme 144 de préparation de l'avenir, avec ce mandat qui a été donné par le ministère et Madame la Ministre, de dire il faut que ce soit pour qu'on puisse faire plus sur des sujets qui fonctionnent déjà et qu'on fasse mieux et différemment avec cet argent en plus. Il ne s'agit pas de faire comme on a fait avant avec plus d'argent. C'est aussi proposer des nouvelles façons de faire. Donc il y a eu des nouvelles organisations, des nouveaux dispositifs, une organisation de notre agence plus en mode projet.
Ouais.
Avant, les entreprises... Le Rapide, c'est un très bon exemple. En fait, les gens disent « j'ai besoin d'un soutien du ministère des Armées sur l'innovation, je vais demander un Rapide ». Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire « c'est pas trop votre problème, vous, d'entrepreneur, vous avez déjà assez de soucis comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir quel est le dispositif qui est pertinent pour vous. Votre problème, c'est de nous soumettre un projet
et que nous,
on voit avec vous. Ok, est-ce que ça m'intéresse ?» Déjà, c'est un premier... Oui.
Est-ce que ça s'applique à la défense? Est-ce qu'il y a un intérêt pour la défense?
Est-ce qu'il y a un intérêt pour la défense? Est-ce que ça répond à un problème qu'on a? Oui, non. Et ensuite, on se débrouillera de vous trouver la bonne solution, le bon vecteur. Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est ceci, cela? On se débrouillera ensemble ensuite. Mais l'idée, c'est de se dire, vous n'avez plus à vous inquiéter. Donc, on a mis en place un guichet unique, on a mis en place une organisation en mode projet à l'intérieur de l'agence, avec ce défi, en fait, qui est celui de l'innovation et de la préparation de l'avenir dans la défense, qui est que tu dois être capable de préparer des choses qui vont... des recherches qui vont aboutir dans 30 ans. Oui,
dire, voilà.
Et puis des projets d'innovation qui doivent montrer des résultats dans 6 mois.
Oui, c'est ça. J'ai vu que on n'a plus la considération sur les TRL. C'est-à-dire que c'est vous allez financer des thèses de doctorat jusqu'à aider la PME ou le groupe déjà installé, on va dire, sur des innovations, des technologies déjà existantes ou pour développement, pour améliorer, etc. Donc, c'est vraiment une démarche sur tout le périmètre de l'innovation, en fait.
Exactement, c'est ça. Donc, bien sûr, TRL, c'est toujours un facteur, mais on essaie que ce ne soit pas le facteur premier d'orientation de la gestion des projets, quoi.
D'accord.
C'est un peu ça, le truc.
Le but, c'est d'obtenir l'autonomie stratégique.
Il y a plusieurs objectifs. Ouais. C'est effectivement assurer la performance opérationnelle de nos armées et leur supériorité opérationnelle, donc concrètement être meilleur que l'ennemi. L'autonomie stratégique, c'est aussi un des objectifs qui est poursuivi par l'Agence de l'innovation de défense, en coordination permanente avec le service des affaires industrielles et de l'intelligence économique de la DGA, donc S2IE. En fait, c'est eux qui ont le cœur de métier de faire la politique industrielle de la défense et de faire le suivi stratégique des entreprises. Nous, on contribue en fait à ce volet autonomie stratégique parce que pour avoir une politique industrielle, il faut aussi avoir une politique en matière d'innovation. Ouais. Donc en fait, tout ça crée qu'il y a un lien naturel avec S2IE. Donc ça, c'est aussi une de nos missions.
Du coup, attends, donc si je comprends bien l'architecture, l'agence innovation défense dépend de la DGA? Enfin, elle est sous l'autorité du comité de pilotage de l'innovation de la défense.
Ouais, il y a un comité de pilotage, tout à fait.
Au-dessus de l'agence innovation défense.
Ouais, qui est présidé par le DGA.
Ouais.
Qui est composé par des représentants de tous les états-majors, les directions et les services du ministère des Armées, puisqu'on travaille tous à leur bénéfice. En fait, il y a une vision très techno, mais en fait, c'est pas que ça. On peut aussi faire des choses pour le SGA, on peut faire des choses pour tous ceux qui nous sollicitent, en fait.
Alors, le SGA, le Secrétariat Général des Armées.
Voilà pour l'administration.
Secrétariat Général pour l'administration. Mais je le laisse. Moi, je n'ai pas de honte, je ne connais pas mes acronymes.
C'est beau, la transparence. C'est 2021, c'est magnifique. Oui, donc, effectivement, il y a ce CPID, en fait, qui nous aide à piloter les orientations de la stratégie d'innovation. Mais en fait, l'agence est rattachée au délégué général.
D'accord, à sa figure et pas à l'acte. Ok, d'accord.
C'est pas un service de la DGA, mais c'est rattaché au DGA.
D'accord. Et quelles sont les relations avec, justement, on en parlait tout à l'heure, tu sais, avec les pôles d'innovation de la DGA, comme Aliénor, Ginkgo, etc. Enfin, il y en a plein. Il y a Gaïa, non? Ah non, Gaïa, c'est armée de terre.
Différent encore, c'est armée de terre. Il y a plusieurs pôles en France. Donc, en fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure dans la mission de l'agence, c'est un fédérateur. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour faire de la coordination aussi. Enfin, quelqu'un, c'est une
entité.
Une entité, voilà, qui est là pour faire de la coordination. Et donc, ça n'a pas du tout vocation à tout faire soi-même. De toute façon, il y a une centaine de personnes, tu ne fais pas l'innovation de défense, ça, c'est pas possible.
Oui.
Donc, en fait, il y a toute une chaîne d'innovation dans les armées, dans les directions, dans les services, où il y a des gens qui, chacun à leur niveau, contribuent justement à ces objectifs d'innovation. Et donc, les pôles d'innovation de la DGA font partie d'un réseau national d'acteurs qui sont partout sur le territoire et qui dépendent de différentes directions et différents services, qui contribuent tous ensemble à l'action et au soutien à l'innovation de défense et qui, avec qui nous, on travaille au quotidien.
Et puis chacun qui sont, si je me souviens bien, rattachés à RTRMR, en fait.
Oui, parce qu'en fait, ils sont rattachés notamment... En fait, ces pôles d'innovation, c'est un lien entre... des directions techniques, donc un centre technique de la DGA, et les forces qui sont à proximité, et la BITD, donc les industriels de la défense, qui sont à proximité. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la DGA a des ressources et des expertises partout sur le territoire qui sont incroyables, et donc ils construisent aussi autour de ces centres d'expertise qui ont des moyens, notamment de tests, d'essais, qui ont surtout des très grandes connaissances des besoins, et donc ils travaillent ensemble dans une logique locale. Et nous, on est en lien avec eux, on peut financer des projets qui émergent de ces pôles d'innovation, qui se sont appelés clusters au début, mais bon, par exemple, Chicourant, le nom a été changé. Je pense que c'est bien. Donc, ce sont des gens qui contribuent à la chaîne innovation, qui font partie du réseau national d'innovation avec qui on travaille au quotidien.
D'accord, et puis j'apporte une petite précision, parce qu'on dit toujours air terre-mer, et on oublie l'aérospatiale.
Qui a été rattachée en fait, à l'aéro, avec notamment l'armée de l'air, qui est devenue l'armée de l'air et de l'espace.
Et d'espace, voilà. Quels sont les gros sujets en matière d'innovation, les attentes, notre politique d'innovation de défense en ce moment.
C'est un vaste sujet.
Ouais, j'en ai pris quelques-uns comme ça, les technologies quantiques, l'intelligence artificielle, la gestion de l'énergie aussi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des gros points
Alors, c'est une question intéressante. En fait, il y a plein d'enjeux qui émergent et qu'il faut réussir à traiter de front, ce qui n'est pas facile, qui fait partie du challenge. Il y a depuis 2019 un document qui s'est appelé d'abord le document d'orientation d'innovation de défense qui s'appelait DOID, mais personne ne retenait, qui est devenu en 2020 le DROID.
Ouais, le DROID, voilà, c'est ça.
Donc, le document de référence et d'orientation de l'innovation de défense, et qui justement recense tous les grands sujets.
C'est super bien fait d'ailleurs. Je tenais à le dire. Il y a certains documents comme ça officiels où clairement. Quand on le commence, qu'on voit 80 pages. Déjà, il fait pas 80 pages, donc c'est vraiment, on est bien content. C'est moins de 40 pages, c'est 37 pages très précisément, et c'est super intéressant. Ça retrace tout, et puis non, c'est vraiment, c'est à lire et c'est pas du tout boring, on peut dire.
Mais non, c'est fait justement pour donner aux acteurs industriels, notamment qui ont envie de se positionner dans ce secteur-là, de comprendre ce que sont nos priorités. Ce qui permet de savoir si vous êtes complètement des années-lumière de ces sujets-là, que c'est pas forcément chez nous que ça va se passer, vous allez trouver le plus d'écho, même si on est toujours aussi dans une démarche d'innovation ouverte où on recherche largement les choses. Mais ça permet quand même de donner des orientations qui sont fortes. Donc, tu en as évoqué plusieurs, effectivement, l'énergie, les applications d'intelligence artificielle pour la défense.
La santé du combattant aussi.
La santé du combattant, absolument, qui a un enjeu hyper important pour les raisons qu'on connaît. En fait,
il y a un article hyper intéressant d'ailleurs sur le site internet de l'agence sur l'IRBA et la réparation des tissus osseux.
Exactement.
C'est totalement récent.
La santé, c'est important parce que, en fait, on parlait de dualité tout à l'heure. Et en fait, dans le monde de la santé militaire, y a des problématiques qui touchent n'importe qui et n'importe quel citoyen peut avoir ce même problème de santé. Et puis, il y a des choses qui sont très spécifiques à des blessures, des dommages qui n'arrivent qu'à un opérationnel dans une situation opérationnelle. Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, Blockprints, c'est un bon exemple d'un projet mais qui émerge depuis longtemps, hein, mais qui est un bon exemple. C'est faire de l'impression 3D de tissu, en fait, pour faire de la greffe de peau, en fait. Et ça permet d'avoir un truc qui est moins intrusif et qui est dans le processus de guérison du patient qui est vachement plus...
Qui facilite,
merci. Hein, je n'y arrivais pas, quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres et que j'explique pas du tout à la hauteur de ce que c'est parce que c'est pas mon métier, mais en fait, on soutient des projets fascinants.
Puis il y a des trucs tout bêtes aussi. Enfin, tout bête, c'est pas si bête que ça. Et c'est surtout ce qu'il faut dire, je pense, aux auditeurs. Et Karine de Helicatim en a un petit peu parlé dans l'épisode d'avril, c'est que n'importe qui, techniquement, peut proposer un projet
absolument
à partir du moment où il pense que son idée pourrait être absolument d'intérêt. Et alors, j'arrive pas à le retrouver là parce que c'est la magie du direct. Mais donc, dans un des documents sur le site, C'est un bon, il se trouve qu'il est militaire, mais il a proposé un projet qui est soutenu par l'AID de protection des chiens pour le saut en parachute. Je crois que ça s'appelle Parafox.
Parafox.
Voilà, ouais. C'est le capitaine Jérôme, ou peut-être que je.
C'est ce qu'on appelle de l'innovation participative. C'est une des formes de soutien à l'innovation.
Il y a des pôles, voilà, différents pôles, qui organisent l'AID.
En fait, c'est une forme d'innovation très particulière, mais qui est. Moi, je le trouve passionnant, c'est l'innovation qui vient des opérateurs. C'est-à-dire, concrètement, on a souvent coutume de dire que les armées, c'est des gens qui innovent, mais c'est vrai, en fait, ils sont dans une situation opérationnelle, il faut qu'ils trouvent une solution. Donc, ils innovent par nature, en fait. Ça a toujours été dans l'histoire des armées. L'innovation participative, typiquement, je suis un opérationnel, peut-être dans mon régiment, j'ai rencontré un problème. J'ai bricolé une solution dans mon garage pour régler mon problème parce que j'en avais besoin. Et en fait, on se rend compte que ce qu'ils ont fait pour eux à petite échelle, pour 3-4 unités dans leur régiment, en fait, il y a peut-être tous les régiments de France qui ont le même problème. Et donc, on pourrait proposer cette solution à tous. Donc, on va les accompagner dans le développement d'un projet pour pouvoir répondre à ce problème opérationnel qu'ils ont identifié, pour lequel ils ont identifié la réponse. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et Parafox, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, ce sont des opérationnels qui font du saut en parachute avec leur chien, qui se rendait compte qu'à l'arrivée, régulièrement, malheureusement, le chien était blessé. Et donc, parce qu'il n'était pas accroché comme il aurait fallu. Parce
qu'il les pattes souci, aussi qui souffraient.
Il avait souvent des souffrances au niveau des pattes. Et outre la condition animale qui nous est chère, en plus, en fait, si on saute avec le chien, c'est parce qu'il a une mission à réaliser quand il arrive en bas. Donc, en fait, personne ne sort gagnant parce que quand il arrive et qu'il, malheureusement, et qu'il a moché, il est blessé, il ne peut pas réaliser sa mission, le chien. Et donc, c'est un opérationnel qui, lui, avait ce rôle de sauter avec son chien, qui a trouvé la solution. Qui a trouvé ce harnais qui permet au chien d'arriver dans de bonnes conditions, d'être bien protégé et d'être opérationnel quand il arrive en bas. Et donc, il a été accompagné pour qu'on puisse faire évoluer le projet.
Et puis bénéficier, à tout le monde. Donc là, on a parlé de l'innovation participative, on a parlé aussi des projets de recherche. Donc là, je suppose que c'est la subvention de thèse.
Par exemple.
Donc, plus à un niveau, et après, exactement. Peut-être qu'il faudrait redescendre.
Ça veut dire que si vous nous écoutez et vous êtes un doctorant et vous faites une thèse qui pourrait intéresser le monde de la défense, potentiellement, on peut vous la financer.
Venez taper à la porte de l'agence d'innovation des choses. Voilà, et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'accélération de l'innovation. Donc là, typiquement, c'est aider à prendre de la hauteur, enfin pas à prendre de la hauteur, mais à accélérer le développement.
Accélérer le développement d'un projet.
Voilà, d'un projet. Et donc la quatrième façon d'accompagner de l'AID, c'est les projets de technologie de la défense. Ouais. Donc ça, on a un niveau plus.
C'est ce qu'on appelait avant les études amont.
D'accord.
Donc vraiment, les études de recherche assez profondes avec une échéance de temps long.
Ouais. Est-ce qu'il y a des projets, toi, à l'AID ? Parce que je sais que toi, tu es plus au niveau des relations institutionnelles, parce que tu es la chef de la cellule institutionnelle, les relations institutionnelles de l'AID. Non, mais c'est cool.
Je suis chef de moi-même. Hein,
chef de toi-même. C'est déjà bien. C'est difficile de gérer soi-même parfois.
On a changé le nom des cellules, ça ne marche même plus. En fait. Donc, il faudra retirer ça parce que ça ne marche même plus. Ça a changé l'organigramme.
Ah, mince.
Toujours chef de moi-même, ça ne change pas ça. Mais
sur LinkedIn, chef de moi-même.
Donc,
est-ce qu'il y a un sujet qui a été traité par l'AID qui t'a particulièrement marqué où tu t'es dit waouh ?
C'est hyper consensuel de dire tout m'impressionne, mais c'est vrai. Enfin, en demeurant, tout m'impressionne parce que en plus, je suis facilement impressionnable, je ne suis absolument pas technique, donc tout me semble incroyable.
Mais comment t'as eu cette idée ? Moi, j'aimerais bien regarder les cerveaux des gens, tu vois, genre. Waouh, les yeux écarquillés, tu sais, d'un enfant, c'est trop impressionnant.
Comment t'en arrives là ?
Ouais.
Qu'est-ce qui m'impressionne le plus ? Attends, faut que je réfléchisse deux minutes. Ce qui m'impressionne toujours, c'est la capacité des gens à être confrontés à un problème et à vouloir y apporter une solution et à réussir à créer cette différenciation qui va se sentir sur le terrain, en fait. Et c'est ça que moi, m'anime quand je vois ce que font les gens et que je trouve fascinant, c'est de dire, ils avaient un problème, on va essayer de le résoudre. Et ça, je trouve ça, c'est pas un projet, mais c'est une ambition que je trouve très belle. On est là pour essayer de leur faciliter le travail et de faciliter le travail des gens qui vont sur le terrain. Qu'est-ce qui m'impressionne le plus ? Tout ce qui est lié à la santé, je trouve ça toujours hyper intéressant et hyper impressionnant parce qu'on fait des choses... En fait, c'est aussi l'idée de dire on va jusqu'au bout de la démarche. C'est pas seulement proposer des choses pour le terrain. C'est aussi dire quand tu reviens du terrain et que malheureusement, tu as été blessé, on va quand même t'accompagner. Il y a des choses qui sont faites. On a parlé tout à l'heure de greffe de peau. Il y a des choses qui sont faites sur...
Une fracture osseuse, ouais.
Voilà, sur les... aussi les... la jambe bionique. On avait ça avait été présenté au Forum Innovation Défense en 2018, notamment. Il y a plein de choses qui ont été faites. J'étais très impressionnée par l'innovation participative pendant la crise Covid, par exemple. Le ministère et l'Agence Innovation Défense a débloqué 10 millions d'euros pour financer des projets qui pouvaient aboutir rapidement pour servir dans le cadre de la lutte pour la crise Covid. Ça, c'est quelque chose qui a été fait en mars 2020, entre mars et avril 2020, donc au tout début de la crise, 3 jours après le confinement, l'appel à projets a été lancé. Il y a 37 projets qui ont été retenus. Et sur les 37, il y en a un tiers qui venait de l'innovation participative. Donc, il y avait des minitaires qui avaient identifié des problèmes, des solutions à des problèmes qui étaient posés par la crise. Je pense à un système de civière, par exemple, qui permet d'isoler un patient Covid pour que s'il est transporté, par exemple, dans un hélicoptère avec un autre patient ou surtout avec les équipages, qu'il ne puisse pas contaminer les équipages, par exemple. C'est plein de choses comme ça qui sont vraiment... preuve toujours d'un grand réalisme, d'une grande réactivité et d'une vraie logique de « il y a un problème, on va apporter une solution ». Et c'est vrai que ça, c'est toujours quelque chose que je trouve hyper impressionnant. Il ne faut jamais oublier que les innovateurs participatifs, ce n'est pas leur métier premier, c'est le métier des armes. Ils sont là pour faire leur mission de militaire et ils prennent sur eux de prendre des initiatives pour régler des problèmes en bricolant des gens, des choses de leur côté, sur leur week-end, sur leur soirée, sur leur pause-déj et ce genre de choses. Moi, ça m'impressionne toujours. Je trouve ça assez fou.
Ok, t'as parlé du Forum Innovation Défense. Ouais. Quels sont les événements où on peut rencontrer, entre guillemets, l'AID et avoir une présentation, justement, des projets Bon, peut-être pour les personnes, les civils, les gens, peut-être c'est pas facile, mais pour les entreprises ou pour les chercheurs, comment on fait?
Alors, le Forum Innovation Défense, c'est vraiment notre moment très fort. Ça se fait une fois tous les 2 ans, normalement. Malheureusement, en 2020, ça s'est fait en digital, pour les raisons qu'on connaît et sur lesquelles on ne va pas revenir.
Ouais.
mais on va essayer peut-être le plus vite possible, peut-être en attendant pas 2 ans, on va voir, mais de créer ce moment-là, parce que c'est typiquement un moment pour les entreprises, mais aussi pour le grand public, parce qu'on n'oublie pas que c'est le ministère des Armées, c'est nos armées, c'est pour le grand public aussi, enfin, c'est la défense du pays. Ouais. Et donc, c'est hyper intéressant que les gens puissent venir voir ce qu'on fait de façon assez concrète. Donc, le Forum Innovation Défense, ça n'a pas toujours lieu au même endroit, pas toujours lieu à la même date non plus, mais c'est vraiment le moment fort et c'est un moment hyper intéressant parce qu'il y a des conférences, il y a des animations, mais aussi, ce sont des opérationnels qui sont là pour parler des projets aussi et dire pourquoi ça a été fait, qu'est-ce que ça règle comme problème dans leur vie de militaire ou de fonction support du ministère des Armées. Et ça, c'est hyper, hyper intéressant. C'est des gens passionnés et passionnants, donc c'est sympa d'aller les rencontrer. Et puis on parle aussi avec les industriels qui ont porté les projets, qui les ont produits. Donc c'est un rendez-vous passionnant. On espère qu'il pourra se faire bientôt, très vite en présentiel, et qu'on pourra accueillir du grand public. Sinon, les occasions de nous voir au 14 juillet. Il y a toujours un petit stand avec des choses qui sont présentées. Donc, c'est l'occasion de venir nous voir aussi. C'est souvent sur le parvis des Invalides, il y a des choses. On a un site internet, on a des réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, il y a des vidéos qu'on peut aller voir avec des vidéos de présentation des projets. Donc, pour découvrir aussi, c'est un bon moyen. Et puis, pour les entreprises qui veulent travailler avec nous, il y a un guichet unique. Sur notre site internet, il y a une page et vous avez tout ce qu'il faut pour déposer des projets et nous proposer toutes vos idées.
La répartition. Est-ce que tu as une idée de la répartition entre les entreprises qui déposent des projets, gens dans l'innovation participative, etc.? Est-ce que tu as une idée?
Là, j'ai pas ça.
Non,
j'ai pas les chiffres. Là, j'avoue, tu bouges une colle. Je n'ai pas la remontée.
N'hésitez pas à envoyer vos bonnes idées.
Oui, mais n'importe qui. Alors, c'est beaucoup des entreprises, bien sûr, mais n'importe qui peut déposer des choses.
La suite pour toi?
La suite pour moi?
Ouais.
Oh là là, c'est pas le travail qui manque.
C'est pas le travail qui manque.
Moi, tant que je m'amuse. Tant que j'ai l'impression de servir à quelque chose, tant que j'ai l'impression qu'on arrive à faire avancer les choses, je m'amuse. Donc je continue. Là, j'ai plein de choses. J'étais au projet transverse aussi. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis là, ça fait 1 an et demi. Et pour le moment, je m'amuse, donc je continue.
Ouais, et puis, t'as d'autres casquettes. On peut en parler. Notamment, retour aux côtés d'Olivier Jajec, dont on a parlé au début de cet entretien, parce que tu es professeur.
Je suis, attention, c'est quand même professeur à l'université, je vais avoir des problèmes. Non, j'enseigne à Lyon 3, je suis revenue dans mon master en fait.
Ouais. Retour à la maison.
Retour à la maison, exactement. Et je fais depuis 3-4 ans, le cours d'économie de défense, qui est en fait un peu un cours sur justement tout ce qu'on vient d'évoquer, la prospective de défense, la politique industrielle, les enjeux industriels et capacitaires en fait de nos armées. C'est un cours que je donne avec beaucoup de plaisir depuis, depuis 3-4 ans là, aux étudiants de Master 2 en Relations internationales, sécurité et défense, et aussi en Master 2 Relations internationales, intelligence stratégique et gestion de crise. Mm-hmm. Donc j'ai 70 étudiants à qui je fais un semestre sur ces sujets-là. Mm-hmm. Et moi, j'adore me prêter à cet exercice parce qu'il me renvoie à des questions que j'arrête de me poser parfois parce que c'est le quotidien. Et en fait, parfois, ils posent des questions où ils ont une vision d'un truc sous un angle où je me dis « Ah ben oui, c'est marrant ça,
c'est pas bête,
je n'avais pas pensé à ça comme ça. » Ou parfois, ils ont des réactions qui ne sont pas du tout celles que j'attendais, par exemple, où je me dis « Ils vont me répondre ça. » Et en fait, ils répondent un truc qui n'a rien à voir. Et c'est marrant, en fait. Et ça oblige à rester très didactique, à rester très clair. Et la première année où j'ai écrit le cours, ça m'a pris des semaines pour savoir par où commencer. Parce que je fallait que je réexplique tout mon métier, que je faisais depuis 2-3 ans, qui était mon quotidien.
Oui.
Par quel morceau faut commencer pour comprendre ce qu'est l'économie de défense, pour surtout comprendre c'est quoi l'industrie de défense, c'est quoi le capacitaire, c'est quoi le lien entre tout ça, c'est quoi la politique industrielle. Et moi, le message que je leur fais passer tout le temps, c'est de dire il faut être capable de toujours analyser les situations selon plein d'angles différents. Et typiquement, dans l'économie de défense, il y a toujours plein de trucs à prendre en compte. C'est des questions de diplomatie, de coopération internationale, d'enjeux économiques, de gestion RH. Est-ce qu'on a assez d'ingénieurs en France? Est-ce qu'on a assez de tourneurs-fraiseurs en France?
Spoiler alert,
il n'y en a pas.
Les tourneurs-fraiseurs.
Voilà.
alors
que la défense en a besoin à fond. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est être capable. Ce que je trouve passionnant dans ce sujet-là, c'est qu'en fait, tu ne traites jamais juste un sujet. La vision assez réductrice, ce serait de dire... je dirais l'équipement des armées, c'est un truc d'ingénieur, mais pas du tout, en fait. C'est des questions
de
plein de sujets. Et moi, je trouve ça passionnant et j'aime bien avoir cet échange-là avec les étudiants. Et puis aussi, j'ai adoré mon passage à Lyon 3. Ce qu'ils m'ont offert de pouvoir faire mon Master 2 à distance, c'est ce qui m'a permis de m'insérer dans le monde du travail. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Et je pense que c'est vraiment un truc qui est super. Et on pousse beaucoup à Lyon 3 les jeunes à y aller, quoi, et à sortir et à faire les choses, tout en gardant une vraie identité recherche.
Ouais.
C'est ça qui est fort aussi, de ne pas opposer les deux sujets, parce que je pense que ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Et donc, moi, je Olivier Zajac était arrivé pendant mon Master 1. Je l'avais tanné en Master 2 pour que ce soit mon directeur de mémoire. Parce que normalement, il ne prenait pas les mémoires des gens qui étaient en enseignement à distance. Mais je faisais ça sur la prospective, c'était son sujet. Ouais. Il connaissait ça et j'avais fait un petit mail. Est-ce que vous ne voudriez pas, peut-être, s'il vous plaît. Il m'avait dit, OK, le sujet m'intéresse, je vais vous suivre. Et donc, j'ai fait mon mémoire sur ce sujet-là. Il se trouvait que dans le cadre de mes activités au GICAT, je le croisais régulièrement, je le voyais dans les bureaux, je le voyais dans des événements. Enfin, c'est un petit monde, oui. Tu sais ça mieux que moi. On croise toujours tout le monde, quoi. Et je savais qu'il faisait un très gros travail à Lyon 3 aussi sur le master. Et moi, j'en avais encore une fois gardé un très bon souvenir. Et donc, j'avais échangé avec lui. Et j'ai dit, vous savez, si vous voulez que des anciens réfléchissent sur comment on fait évoluer les choses, sur comment on peut travailler, moi, je suis à votre dispo. J'ai envie que Lyon ait aussi la reconnaissance que ce master mérite, quoi.
Très réputé,
il était déjà très réputé. Mais voilà, moi je lui avais dit, je vais
faire le monter en puissance.
Exactement, j'avais dit, je sentais que c'était ça qu'il avait aussi envie de faire, et je dis, si vous avez besoin, je vous aiderai. Et puis une fois, on en discutait, et je lui disais, vous savez, je pense qu'il y a un truc qui manque, c'est un cours sur l'industrie de défense, le secteur capacitaire. Vous savez, moi je suis arrivée, je l'ai appris ça sur le tas. Alors on apprend toujours son métier sur le tas, c'est normal, mais. Je me souviens de lui dire, j'ai pas souvenir que ce sujet, on l'ait traité pendant mes cours, et moi, j'aurais bien aimé. Je me souviens de cet échange, il me dit, c'est pas facile, il faut que je trouve un intervenant. Hein. J'ai dit, c'est sûr. Puis, sans arrière penser, oui, c'est sûr, il faut que vous trouviez un intervenant, ça peut pas être facile. Et puis, regarde, non, Mathilde, il me faut un intervenant.
Coucou.
Par exemple. et au début, il m'avait dit ça, et puis après, on avait enchaîné sur notre réunion, on n'avait pas élaboré sur la conversation, je me suis dit, les pédales. Et puis dans les semaines qui avaient suivi, je me sens dans le métro, j'en ai pensé le matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je mettrais dans un cours sur ce sujet-là? On parlerait de quoi? Qu'est-ce qu'on ferait? En fait, j'avais plein d'idées. Je me disais, mais en fait, ce serait Enfin, ce serait cool, non?
Ouais.
Ça pourrait être marrant, en fait.
Mais en y réfléchissant et en ayant fait un peu le même travail que toi, c'est vrai que je me dis, waouh, comment on fait enfin, j'imagine le... Ouais, c'est ça, tout le questionnement de... Alors, comment va expliquer...
Comment je rends le truc intelligible?
Non, c'est ça.
C'est ça, hein, en fait. Et comment je fais pour que ça les intéresse aussi?
Oui, c'est ça, ouais. Parce que nous, ça nous fait marrer. Nous, ça nous intéresse. Mais si ça se trouve, les gens autour de nous, ils se disent, c'est nul.
En fait, ça va les souligner. Donc, comment on rend le truc aussi motivant? Parce qu'en plus, il y a plein de perspectives en termes, ne serait-ce que de recrutement. Donc, pour leur avenir aussi, c'est bien qu'ils soient conscients de ça. Et voilà, et donc au final, Louise Zajek m'a recrutée pour faire ce cours, et puis je m'amuse comme une petite folle. Si mes étudiants m'écoutent, peut-être qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Mais
je suis très heureuse d'être avec vous.
Ils vont se dire, non, on n'est pas heureux du tout, elle n'est pas tendre du tout. Merci à la mère, le
elle
cadeau.
Elle nous a saqué la dernière fois, super. Vu que tu t'ennuies dans ta vie, parce que je sais que tu t'ennuies profondément, tu es aussi investie à l'IHEDN. L'Institut des hautes études de défense nationale, dont on a parlé aussi avec François rapidement, parce que lui aussi a fait un petit passage,
il a été président de l'Association des jeunes, donc il a fait un gros passage. L'IHEDN, effectivement, est une institution qui a eu le bon goût, il y a de nombreuses années maintenant, de tendre la main vers la jeunesse. Et au-delà des séminaires et des cycles régionaux ou nationaux qui sont vraiment destinés à des professionnels déjà expérimentés ou plus ou moins expérimentés, ils ont aussi proposé des cycles de formation pour les jeunes, étudiants ou jeunes professionnels, qui s'intéressent au sujet de la défense et de la sécurité, et ils proposent donc pendant une semaine d'aller faire ces formations. Et en fait, de ça est née, il y a bientôt 25 ans, une association des auditeurs, des jeunes qui étaient passés par ces cycles-là, qui s'appelle maintenant, qui s'appelait la Nage IHEDN, qui s'appelle maintenant les jeunes IHEDN. Et en fait, c'est devenu un réseau encore plus étendu, en fait, des jeunes qui s'intéressent à ces sujets-là, qui ont fait le cycle, parfois qui viennent d'abord à l'association et après vont faire le cycle, enfin voilà, qui arrivent un peu par tous ces biais-là. Moi, je suis très impliquée dans l'association, je l'ai rejoint en 2016. J'y suis responsable du comité Armée du Futur depuis un peu moins de 2 ans. Donc, c'est le comité qui réfléchit à tous les sujets qui portent sur la prospective, la préparation de l'avenir, les conflits de demain, les technologies de demain, l'organisation des armées de demain, enfin, tout ce qu'il y a demain. C'est
tout ce qu'il y a demain et qui concerne la défense.
Exactement.
Okay.
Tout ça nous intéresse. Il y a 14 comités thématiques dans l'association. D'accord. Il y a des délégations dans toute la France métropolitaine et aussi en Corse. Et je crois qu'il y en a en Outre-mer, pas partout, mais il y en a quelques-unes. En tout cas,
Guadeloupe.
C'est un des objectifs, en tout cas. Et il y a des délégations à l'étranger aussi.
Ouais.
Donc, des délégations internationales aussi. Et c'est une association que moi j'adore parce que c'est vraiment la jeunesse qui s'engage sur un sujet qui t'intéresse, qui est entièrement bénévole. Ça, on l'oublie beaucoup parce que c'est une association qui produit beaucoup d'activités. Et les gens parfois oublient que ça a été produit sur les week-ends des gens, les soirées des gens, leur pause déj, leur pause café, la pause clope.
On sent le.
Voilà, leurs vacances, leurs nuits. Voilà. C'est là que tout est produit, et donc c'est bien de le rappeler parfois, mais c'est génial parce que c'est une association qui brasse plein de profils, plein de gens qui sont hyper motivés, qui ont envie de donner des choses pour le monde de la défense, pour capter la jeunesse, pour que la jeunesse s'y intéresse. Et donc, moi je m'occupe de ce comité depuis un peu moins de 2 ans, et pareil, on s'amuse beaucoup, on fait plein de choses. Là, dans une semaine, donc du 6 au 11 avril, on va faire la semaine du turfu. On fait une semaine entière consacrée à des sujets de prospective, avec Madame la Ministre qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc là, c'est un peu le... On est à 4 jours du truc, je te cache pas que c'est un peu le rush de l'organisation. J'ai le téléphone en surchauffe depuis tout à l'heure, tu le vois pas, mais en fait,
je te prends ton temps.
Depuis tout à l'heure. Donc c'est assez marrant, mais on est hyper motivés. Il y a plein de gens qui font des choses passionnantes dans cette association, que je recommande à tout jeune intéressé par le monde de la défense et qui a envie de rencontrer d'autres jeunes que ça intéresse et qui a envie de faire plein de choses.
Il y a un âge minimal.
C'est à partir de 18 ans et techniquement jusqu'à 35.
Oui, parce que 35 ans, c'est l'âge dans lequel on peut candidater pour les sessions IHEDN des adultes, quoi, des grands.
Des grands.
Exactement ça.
Donc, voilà. Oui, bon, j'ai quelques amis qui ont passé 35 ans, mais qui rasent un peu les mains, ils se font oublier. Ils sont là, non, j'ai 33 ans. Depuis 4 ans. Mais c'est ça.
Ok, bah écoute, est-ce que tu as des, je sais pas, des conseils pour des entreprises qui veulent innover dans le monde de la défense, pour des jeunes qui veulent étudier les sujets qui, toi, te passionnent, enfin, je sais pas, des conseils en général?
Alors, c'est très vaste. C'est vaste. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que c'est un monde qui est fait pour tout le monde. Mm-hmm. Ça, c'est important. Je pense qu'on se fait souvent une idée du fait que, bah, comme je te disais au début, hein, moi, quand je suis arrivée, faire de la défense, ouais, être militaire, non. Il y a plein de façons de s'engager. C'est un monde d'engagement. Moi, c'est ce que j'adore dans ce monde-là. C'est ce qui m'anime. C'est un monde d'engagement. Et on a plein de façons de s'engager. On peut s'engager pour le monde de la défense en étant entrepreneur, en étant militaire, en étant dans une association, en étant réserviste, en faisant plein de choses. Il y a plein de façons.
Ah oui, la réserve, on en parle pas souvent, mais ouais,
la... oui, il y a la réserve, vrai, aussi. La réserve. On peut servir la défense en étant dans l'industrie. Il y a plein de façons de servir ces sujets-là. On peut très bien être dans une entreprise civile qui, de temps en temps, fait des petites incursions dans le monde de la défense. Il y a plein de choses, il y a plein de façons de s'engager. Moi, c'est ça que j'ai envie de faire retenir comme idée. Et
si vous êtes une entreprise et que vous avez des innovations, n'hésitez pas. Venez nous voir.
La dualité, c'est hyper intéressant. Vous pouvez faire un petit peu de tout et on vous soutiendra si on le peut et si ça correspond à un besoin chez nous. Et si vous êtes jeune, et si vous êtes une entreprise, embauchez des jeunes aussi qui sont... plein de vie et qui ont envie de faire des trucs, ont envie de faire leurs preuves. J'en vois tous les jours,
ouais,
à l'association, à la fac. Ils meurent d'envie de faire leurs preuves et de venir travailler pour le monde de la défense. Faites-leur une place, faites-leur confiance, vous ne serez pas déçus.
Qu'est-ce qu'on, voilà, peut te souhaiter à toi? Des projets en plus de l'IHEDN, en plus de Lyon 3, en plus de l'AID. Est-ce qu'il y a des trucs qui se préparent ou pour l'Agence Innovation Défense?
En plus
défense,
de la réserve.
En plus de la... Ah, t'es réserviste. Non, mais parle-nous-en. Attends, on fait un petit... Donc, la réserve, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est vrai qu'on n'en parle pas.
Je suis réserviste dans l'armée de terre.
D'accord.
D'ailleurs, une des entités de la chaîne Innovation de l'armée de terre qui s'appelle le Battle Lab Terre, qui est le, oui, lab d'expérimentation de l'armée de terre. Je fais pas beaucoup, je fais pas beaucoup de jours de réserve, hein. Je viens donner des coups de main. J'ai un poste de réserviste de bureau, je suis ce qu'on appelle un réserviste spécialiste, donc qui n'a pas forcément passé de formation militaire, mais qui est là pour une compétence spécifique. Moi, on était venu me chercher pour ma connaissance, j'étais encore dans l'industrie, pour ma connaissance du monde de l'industrie, du fonctionnement de ces problématiques là dans une structure, le BLT, qui venait tout juste de se créer, donc qui avait besoin d'un peu d'ancrage et qui avait très peu de RH à ce moment là Moi, je l'ai fait parce que j'étais encore dans l'industrie à l'époque, j'étais déjà chez Jeune IHEDN, j'avais l'impression de beaucoup tourner autour des armées et de pas être dans le cœur du sujet, et j'avais envie de servir, enfin, tout simplement, j'avais envie d'aider encore de façon directe les armées. Je connaissais bien l'armée de terre parce que je, ouais, travaillais avec elle au quotidien. Je l'aimais. J'aimais l'armée de terre, ça a l'air sympa. Et j'ai proposé mes services. À ce moment-là, le battle à terre se montait. Moi, je cherchais une façon de servir. Je savais qu'ils allaient être assez courts en bras dans les premiers mois. Et donc, je les ai appelés. Je leur ai dit, écoutez, moi, je cherche une réserve. Est-ce que vous pensez que je peux vous aider? Si oui... je suis là.
D'accord.
Si ça vous intéresse, je suis là. Et à cette époque-là, le colonel qui était en train, qui est devenu général maintenant, mais le colonel qui était en train de monter ça m'avait dit, bah, Mathilde, banco, oui, allez, go. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, je vais prendre toute l'aide que je peux avoir. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait il y a un peu 2 ans.
D'accord.
Environ. Voilà.
Et donc, comment ça fonctionne? Ça veut dire que tous les ans, tu as un nombre de jours définis?
Ouais, en fait, on travaille avec mon colonel. Il m'appelle quand il a besoin. Il me demande de bloquer des jours. Je vais passer la journée là-bas. Il me donne une liste de tâches à faire comme ça. Après, de temps en temps, il me passe un coup de téléphone. Il dit, j'ai une telle situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me demande mon avis. Je lui donne. Et puis, on travaille comme ça en très bonne intelligence avec cette super équipe là-bas au Battle Lab Terre, qui est top. Et voilà, et c'est un plaisir de, bah ouais, avoir l'impression de rendre service.
D'accord. Voilà. Je pense que je ferai un petit focus dans un épisode justement des conventions de partenariat entreprises et réserves,
ouais,
où les entreprises, alors c'est un processus des conventions de partenariat qui permettent aux entreprises d'avoir un encadrement de la réserve pour leurs employés en garantissant certains jours, certaines conditions salariales, etc. Et c'est intéressant de se renseigner là-dessus si vous avez envie, si les auditeurs ont envie de s'engager et puis de donner un petit peu de leur temps.
Exactement. Et de leur expertise.
C'est ça. T'as un grade militaire ?
Je suis lieutenant.
Ah.
C'est bien.
Voilà. Ok, donc bah, t'es bien occupée en fait. Donc,
je suis bien occupée, ouais.
Est-ce que t'as d'autres choses sous le coude
là ? Là, c'est bien déjà.
Là, c'est bien. D'accord.
Là, c'est bien. Ça m'occupe.
Et la idée dans le futur, là, dans quelques jours, qu'est-ce qui se prépare, l'actu du moment ?
Qu'est-ce qui se prépare ? Non, il faut nous souhaiter qu'on continue à avoir plein de projets à soutenir, ouais. Qu'on continue à travailler au mieux avec les forces, avec les directions et des services pour le service de nos personnels, parce que c'est ça en fait le sens de notre mission, c'est de fournir des solutions pour les personnels, donc il faut juste nous souhaiter de continuer à faire ça. Okay, voilà, bah de faire toujours mieux et toujours plus efficace.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps à quelques jours du turfu de ton événement IHEDN. Ça doit être une torture.
Non, c'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir.
À très bientôt. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses voilà, pour toi, pour l'AID, pour la réserve. L'IHEDN, tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Slice. Voilà,
merci Marjolaine.
Bye bye, à plus.
Bye.
Merci encore à Mathilde de m'avoir consacré du temps et une place dans son planning déjà bien chargé. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens utiles dans l'article dédié à cet épisode sur le site internet slice-lepodcast.fr. Je vous donne rendez-vous dans 15 petits jours pour un prochain épisode. Nous passerons tout le mois de juin en Bretagne. On visitera d'abord les Côtes d'Armor et on finira en beauté dans le Morbihan. Jusque-là, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à lui laisser 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez également montrer votre soutien en nous rejoignant sur la page LinkedIn de Slice, le podcast.